7h, 3 minutes à Bukavu, ce dimanche 9 août 2026. Vous suivez Radio Mandeleo sur 88.8 dans la ville de Bukavu, sur 91.7 dans les territoires, partout au monde sur internet en tapant le www.radiomandeleo.org. Merci infiniment pour votre attention. Un seul sujet au menu de l'émission Paix et Développement de ce jour. 15 personnes ont été libérées par les autorités congolaises et remises vendredi à l'AFC M23. Le convoi a quitté Beni, dans le nord de la province du Nord Kivu. Après avoir transité par l'Ouganda, il a rejoint le territoire de Rutshuru, où la remise a eu lieu le 7 août au matin. L'opération s'inscrit dans le cadre du mécanisme de Doha signé par les parties en septembre 2025. Selon le CICR, l'opération a été menée en coordination avec les autorités sanitaires dans le respect des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Il s'agit du premier transfert de ce type depuis la signature du mécanisme de Doha. Washington salue ces gestes et appelle les parties à poursuivre cette dynamique vers la pleine mise en œuvre du processus. En revanche, l'État du Qatar estime que cette libération constitue une étape importante pour renforcer la confiance entre les parties et créer un environnement favorable à la poursuite des efforts en faveur des solutions pacifiques et durables. Que représente ce geste dans le cadre du processus de Doha? Quelle évaluation faire de ce processus? Quelle suite entrevoir? Nous en parlons avec des analystes dans l'émission Paix et Développement de ce jour. Mise en onde, Jean-Claude Ndagué devant ce micro pour la présentation. Expédie Kialou, une fois de plus, bienvenue à vous, chers auditeurs.
Jumbo, Bwana means hello, Mr. Swahili ni rahisi, it's no tongue twister, no problem.
Hakuna matata.
Welcome friend, it's karibu rafiki, let's have some chai with lots of iliki, no problem.
Hakuna matata.
Matata means there's no problem, Simba is lion and that's our emblem, no problem.
Alright.
Hakuna matata. Roast meat is nyama choma, the drums that we play we call them goma. No problem.
Hakuna matata.
Kwaheri ni rafiki means goodbye friends. Nyimbo imekwisha, this is where the song ends. No problem.
Hakuna matata.
So long friends, kwaheri ni rafiki. God bless you. Mungu awabariki. No problem.
Hakuna matata. Jambo
bwana means hello mister. Swahili ni rahisi, it's no tongue twister. No problem.
Bonjour, très chers auditeurs, surtout bonne condition d'écoute. Merci infiniment pour votre attention soutenue. Avant, bien évidemment, d'entamer notre sujet principal, unique sujet de l'émission de ce jour, nous allons d'abord rappeler les faits marquants ce week-end, le fait qui marque l'actualité. Déjà, au moins 3 personnes, dont une femme et ses 2 enfants, ont été tuées, plusieurs autres blessées vendredi lors des affrontements entre combattants Wazalendo et les éléments de l'AFC M23 à Bunje dans le groupement de Ziralo, chefferie de Bouavou, en territoire de Calais. Selon des sources locales, une bombe a été larguée à partir de la ligne de front sur l'axe Panama, Tchabikere, Katale dans le village de Bunje. L'explosion aurait causé plusieurs dégâts humains et matériels. Et les principaux partis d'opposition réunis au sein de la coalition Article 64 C64 ont condamné samedi des attaques visant plusieurs de leurs formations politiques maintenues au 15 août les séances qui s'étaient fixées avant de lancer de nouvelles actions selon un communiqué. La coalition qui rassemble notamment les idées de Martin Fayoulou, ensemble de Moïse Katumbi et LGD d'Augustin Matata Ponyo, mais également en vol de Délice et Sang, affirme que des membres du MRC, du LGD et d'ensemble ont été pris pour cible lors d'une réunion politique le 6 août dernier. Elle dénonce également une attaque contre le siège de l'ECID le 7 août. Ces actes sont qualifiés par la coalition des violences et d'intimidation, incompatibles avec le principe de l'état de droit, le pluralisme politique et l'exercice des libertés publiques garanties par la Constitution. La coalition Article 64 réaffirme par ailleurs les positions exprimées dans ses communiqués du 20 et du 29 juillet, indique que l'échéance du 15 août demeure inchangée. Elle précise qu'à défaut des réponses concrètes à ses revendications, d'ici cette date, elle reprogrammera sa marche. Voilà, dans la ville de Bukavu, voilà, les habitants sont appelés à souscrire chacun en ce qui le concerne à une assurance, quel que soit son moyen de déplacement utilisé ou l'activité réalisée afin de se protéger contre les risques liés aux accidents et préserver leur patrimoine face aux imprévus. Message de la Société Impériale Assure au cours d'une caravane motorisée organisée vendredi dernier dans les principales artères de la ville de Bukavu pour la chargée de marketing d'Impériale Assure. Cette initiative visait donc à sensibiliser la population sur l'importance de l'assurance, les différentes offres disponibles ainsi que les avantages qu'elles procurent aux assurés. Je vous propose de suivre la personne chargée du marketing au sein de la Société Impériale Assure. Nous allons l'écouter dans cet extrait choisi par notre consoeur Myriam Mufano.
Je suis la chargée de marketing chez Impériale Assure. Vu que nous avons un nouveau bouquet d'assurances, nous avons prévu d'aller vers notre population de Bukavu, en fait de les faire comprendre l'importance de l'assurance, mais aussi chercher comment parler avec notre population. Auparavant, la population se plaignait trop par rapport à la tarification de nos assurances. Alors on a essayé de créer un nouveau bouquet qu'on appelle l'assurance Koroboi. Ça veut dire, peu importe le moyen que vous avez, donc pour le moment chez Impériale Assure, vous avez la capacité d'avoir l'assurance. Nous avons des assurances d'une semaine, d'un mois, donc nous essayons de communiquer avec la population. Premièrement, des parkings, parce que nous considérons que les motards, les badjagistes, nombreux ne sont pas encore au courant de ce bouquet. Alors nous avons ciblé les parkings, les ronds-points, afin de discuter et désinformer de la situation actuelle de notre société. Nous espérons que nos clients aussi vont passer dans nos agences pour se procurer de nos assurances. La population de la ville de Bukavu, la société d'assurance impériale, nous sommes là pour vous. Nous avons écouté vos lamentations par rapport à la tarification et nous sommes là pour vous en parler. S'il y aura des questions sur terrain, nous serons là pour vous répondre et nous espérons que vous serez aussi contents de la modification.
Merci beaucoup. Vous étiez en train de suivre la chargée de marketing d'Impériale Assure au micro de notre consoeur Myriam Mufano, et nous allons recevoir certains émissaires d'une structure étatique que vous découvrirez dans peu de temps. Dans un premier temps, nous recevons Jospin Mboussa, chef de division du cadastre de Bukavu 1. Jospin, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste, merci.
Nous accueillons dans ce studio Gabine Tela, qui est conservateur de titres immobiliers dans Bukavu 1. Monsieur Gabi, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous recevons également Rueto Akilimali Eric, qui est conservateur des titres immobiliers dans Bukavu 2. Rueto, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Jospin Mboussa, vous êtes là pour annoncer certaines réformes dans le domaine foncier dans la province du Sud Kivu. Désormais, à titre justement d'échantillon, pour toute transaction ou disons pour tous les actes qui concernent le foncier, il faut associer le notaire. C'est une des instructions prises par l'autorité à bien vous écouter. Quel est le motif qui fonde bien évidemment cette prétention?
Alors, merci beaucoup monsieur le journaliste pour la parole accordée. Peut-être avant d'aborder la question du notaire, il faudrait définir qu'est-ce que le cadastre. Uh-huh. Parce que ce qui est du notaire, c'est le conservateur qui pourra beaucoup édifier la population. Le cadastre, c'est le service de l'État qui se charge de l'inventaire des biens fonciers et immobiliers de l'État. Et c'est un service technique au service du conservateur des titres immobiliers. Et donc, le cadastre ne peut entreprendre aucun travail sans une autorisation préalable du conservateur des titres immobiliers. Le cadastre, c'est un service qui gère les techniciens, les géomètres, les arpenteurs. Et ce sont eux qui fournissent des informations techniques au conservateur pour qu'il puisse établir un titre de propriété. C'est pourquoi vous voyez les gens mettre sur terrain avec des horaires d'émission, aller procéder au mesurage et bornage, faire des expertises selon la demande du conservateur des titres immobiliers. C'est ça le cadastre.
C'est justement ça le cadastre. Comme vous l'avez dit, vous êtes un service technique du conservateur des titres immobiliers. Ouais. Vous réunissez notamment les géomètres pour faire le mesurage sur le terrain. Quand des tierces décident par exemple de vendre une propriété foncière, ouais, c'est vous qui arrivez sur le terrain pour le mesurage, le bornage et tout le reste.
Tout à fait.
Voilà. Quel type de réformes ont été initiées dans votre secteur?
Le cadastre, comme vous le savez, disons, la gestion du foncier pose beaucoup de problèmes dans toute la République. Particulièrement en ville de Bukavu, il y a, si vous allez au centre d'arbitrage, et comme la justice n'a pas encore fonctionné, vous trouverez 90% des conflits sont des conflits fonciers. Et le cadastre s'est lancé dans une réforme pour qu'il puisse apaiser la population et épargner cette population des conflits fonciers. Il y a un projet de numérisation du cadastre qui est en cours. Et cette numérisation, c'est pour rendre numérique tous les plans, tous les plans cadastraux, de sorte que s'il y a un conflit foncier, avec le plan numérique, on peut arriver à identifier toutes les parcelles possibles qui sont dans la ville. Et si c'est un problème de limite, un voisin peut empiéter, peut dépasser ses limites, mais avec ce plan numérique, on sait rétablir chacun dans ses droits à terme de mesure. Et ça épargne la population à des conflits de limites. Et disons, même en géomètre, parce que quand on a des plans physiques, il y avait des pratiques à l'époque. Il y avait ceux qui grattaient les plans pour créer des conflits. Mais avec ce projet de numérisation, personne ne peut s'aventurer à faire ce genre de manœuvre.
Où est-ce que vous en êtes avec la mise en œuvre de ce plan numérique?
Nous sommes dans la phase de formation des géomètres, la capacitation. Et je sais que d'ici là, nous allons procéder au lancement officiel de récolte des données géospatiales sur terrain.
Voilà, merci beaucoup. Monsieur le conservateur des titres immobiliers dans Bukavu 1, quel type de réformes ont été entreprises dans votre secteur?
Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Avant d'y arriver, il fallait que notre population sache d'abord qui est le conservateur. Vous êtes sans doute le conservateur et ses fonctionnaires de l'État qui gèrent les fonciers, les domaines les plus sensibles que vous êtes sans ignorer. C'est lui qui crée les droits, transfère les droits, mute les droits et conserve les droits de propriété.
Ok.
S'il faut évoluer dans votre logique, aujourd'hui, oui, nous avons un souci, comme venait de le dire le chef de division du cadastre, et le gouverneur n'a cessé de souligner cet aspect des choses ayant trait au conflit, au conflit qui est vraiment à grand nombre devant les cours et tribunaux. Alors, le souci du gouverneur dans sa politique de la gestion des terres, c'est pour atténuer tous ces conflits. Alors, pour atténuer cela, il faut connaître le pourquoi d'abord de tous ces conflits. Et généralement, nous avons constaté avec amertume que notre population ne sait pas réellement là où il doit frapper. Comment il faut acheter un immeuble, comment il faut acheter une maison, comment il faut acheter une portion de terre. C'est ça le grand problème qu'il y a. On ne peut pas acheter une portion de terre ou un immeuble ou une maison comme on le fait avec des cacahuètes au coin de la rue. il y a des endroits appropriés, il y a des méthodes, il y a des voies à suivre. Et là, j'en profite pour vous dire aussi que pour acheter une parcelle, il faut voir la personne attitrée qui est le conservateur des titres immobiliers. C'est lui qui est habilité à vous dire que non, voilà, sur ce fonds, il y a tel document, et pour y procéder, vous devez faire ça.
Voilà. Monsieur Gabi, je crois que c'est la pratique existait depuis toujours. Même si les tiers s'entendaient, il y avait cette obligation de passer au transfert de propriété en contactant le conservateur des titres immobiliers. Mais à quel niveau se situe maintenant la nouveauté? Où est-ce qu'il y a un élément nouveau dans toute la procédure?
Oui, c'est vrai, vous dites que bien avant, les gens consultaient toujours les conservateurs. Mais aujourd'hui, là, je vous dis, il y a un aspect des choses très important. Et nous avons constaté, même quand nous allons devant les cours et tribunaux, les gens se prétendent acheter, ils se limitent entre eux. Des transactions qui se font d'une façon là...
Bon, entre tiers, entre eux, ils se
décident, ils se limitent là-bas.
Une portion de terre,
voilà.
Et ils se limitent à ce niveau. Quand il y a problème, ça remonte maintenant
au niveau institutionnel.
Voilà. Et est-ce que vous avez déjà échangé avec les autres acteurs impliqués dans le domaine, notamment par exemple les commissionnaires, pour qu'ils comprennent un peu comment vous organisez la dynamique?
Et effectivement, sous l'impulsion du gouverneur Boussou, je vous informe que hier nous avions eu un échange houlé avec les commissionnaires. Et il y a une nouvelle politique maintenant pour les différentes ventes des terrains. Le gouverneur tient mordu puce. C'est fini ces histoires de 8 mètres sur 5, ainsi de suite. Donc il tient qu'il y ait quand même la viabilité. Hein? C'est-à-dire, s'il y a morcellement, qu'on respecte les normes. Plus question de morcellement donc inférieur à 20 mètres sur 20. Là, en tout cas, son excellence est catégorique. Nous voulons vraiment donner une nouvelle lumière dans ces secteurs ici.
Et nous accueillons, nous l'avons déjà présenté, Roueto Akilimali, Eric, qui est conservateur des titres immobiliers dans Bukavu 2. Quelle est la visée de l'autorité provinciale en rappelant aux acteurs impliqués ces différentes dispositions?
Merci pour la parole accordée. La visée du monsieur le gouverneur, c'est limiter les conflits, comme venaient de le dire mes collègues. Dans l'ancien temps, le vente se faisait comme on veut. Mais le gouverneur veut que désormais, c'est lui qui va vendre et c'est lui qui va acheter, que les deux puissent être devant un notaire, soit quand ils n'ont pas de titre. Donc, un lopé de terre qui n'est pas couvert par un certificat ou un contrat de location, il veut que toute vente, que ça puisse se passer directement devant les notaires au niveau de la mairie de Bukavu.
Pour qu'il authentifie l'accord qui a été passé entre les deux parties.
Oui, c'est là pour éviter que le vendeur ne puisse pas donner à une ou plusieurs personnes un fonds. Mais aussi quand il y a un titre, comme c'est nous qui conservons ces titres des tierces, et il veut que le vendeur puisse d'abord passer devant le conservateur, vérifier l'authenticité des titres qu'il détient, et puis leur transaction doit ou peut être corrigée ou passée devant le conservateur. C'est ça. La nouveauté est que le gouverneur veut que les parcelles inférieures à 20 sur 20 ne puissent plus exister
dans la ville de
Bukavu et dans tout site Kivu.
Souvent, il faut rappeler que c'est vous, acteurs ou agents des différents services techniques, qui étiez pointés du doigt dans le morcellement des différentes parcelles de la ville de Bukavu. Qu'allez-vous faire cette fois pour limiter l'intervention ou l'activisme des acteurs, par exemple du service de cadastre, dans cette mafia?
Oui, si on a voulu que le vente puisse se passer devant le notaire, ou que nous sommes, ou que Madame Kamarachaou est, c'est pour que nous limitons juste au départ, juste au départ, le vente de cette parcelle qui ne correspond pas à l'esprit de l'arrêté de monsieur le gouverneur.
Et qu'en est-il des autorisations de bâtir, monsieur Jospin Mboussa?
Oui, en fait, je voudrais revenir sur ce que le collègue Rouet vient de dire. Ce n'est pas seulement l'arrêté du gouverneur qui, disons, qui n'autorise pas le morcellement de moins de 20 sur 20. C'est aussi la loi. Donc l'arrêté du gouverneur est venu juste appuyer la loi sur le morcellement. Et les autorisations de bâtir, en fait, l'urbanisme intervient après la base légale qui est le titre de propriété. Et donc si nous arrivons à maîtriser cette question de morcellement, si nous arrivons à maîtriser même les mesures légales par rapport à, disons au morcellement, c'est que l'urbanisme ne pourra pas autoriser les constructions sur les parcelles de moins de 20 sur 20. Et comme vous le savez, la ville de Bukavu est maintenant mal urbanisée. Et ce qui l'ont fait, ce sont les fils et filles de Bukavu. Ce ne sont pas des gens qui sont venus de l'étranger pour, disons, venir torpiller l'urbanisation de Bukavu. Et donc, on doit prendre conscience. C'est la raison même de la réunion qu'a tenue M. le gouverneur de province avec les commissionnaires, parce que actuellement, les affaires foncières maîtrisent moins l'occupation des terres en ville de Bukavu, comme dans toute la République. Les experts disent que le foncier maîtrise moins de 10%. Et donc, il y a des occupations illégales. Et pour réussir à maîtriser cette occupation, il a fallu revenir vers les commissionnaires. Le système des commissionnaires n'est pas vraiment légal. En principe, la loi dit que si vous voulez avoir une portion de terre, il faut passer par le service des affaires foncières, devant le conservateur. Parce que c'est le conservateur qui est tenu à maîtriser les occupations. C'est lui qui doit avoir le plan de tous les lotissements, selon les zones, selon les usages. Quand tu as besoin d'une parcelle résidentielle, tu dois t'adresser auprès du conservateur. D'ailleurs, il y a un imprimé qu'on appelle demande de terre. Tu fais la demande de terre auprès du conservateur. Et lui qui maîtrise, toutes les parcelles, il dit, OK, voilà, tel a demandé une parcelle résidentielle. Voilà l'opportunité, il t'envoie au cadastre, on va vous montrer la parcelle. Et donc, si nous arrivons à prendre conscience que nous devons aider l'autorité provinciale à corriger l'urbanisation de la ville, nous devons commencer par les commissionnaires, les morcellaires, qui se donnent jour et nuit à morceller à leur gré sans une procédure légale. Et quand on corrige par là, on remet le pouvoir aux affaires foncières qui ont cette prérogative de morceller ou de gestion de la terre. Et en application des textes liés au morcellement et de l'arrêté du gouverneur, je sais que nous allons arriver à maîtriser cette urbanisation de la ville de Bukavu.
Qu'en est-il également des espaces publics qui étaient menacés de spoliation dans la ville de Bukavu, des espaces de jeux pour enfants, des terrains de football qui jadis étaient menacés de spoliation par des tierces ou particuliers?
En fait, je pense que il faut se taper la poitrine de remercier le mouvement AFCM23 qui vient avec des rénovations, mais aussi qui a cette volonté de récupérer les espaces qui étaient déjà spoliés. Il y a une commission qui est déjà créée à la coordination, qui est en train d'évaluer les PPP, parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans ce système de partenariat public et privé. Il y a les mêmes commissionnaires, des grands hommes d'affaires qui créaient des faux PPP, et dans l'objectif de spolier les parcelles de l'État. Aujourd'hui, sur 100% de parcelles de l'État, je ne vois même pas 40% qui est encore disons, dans la gestion de l'habitat. Mmh. Et donc, toutes les parcelles, toutes les propriétés de l'État qui sont déjà spoliées, ceux qui ont spolié doivent s'attendre à restituer ces terrains à l'État. Parce que la loi n'autorise pas que les parcelles de l'État soient concédées à des tierces. Il y a une procédure, et la procédure doit être respectée, c'est celle d'une désaffectation préalable. Et cette désaffectation demande une longue procédure, une demande, mais aussi vérifier est-ce que réellement la demande répond aux besoins de la population. Mmh. Et donc d'ici peu, ne soyez pas surpris des décisions qui vont venir de cette commission de récupérer toutes ces parcelles de l'État et que l'État soit rétabli dans ses droits.
Merci beaucoup. Et Gabi, est-ce que les différents actes de vos services sont disponibles à toutes les bourses, donc à coût accessible pratiquement à la population, y compris même la masse ouvrière?
Oui, merci pour la question. Vous savez, quand on mène une révolution, on sous-entend à un changement. Et au travers des mouvements, aujourd'hui je vous parle, la mutation qui était jadis à 3% de la valeur vénale est rabattue à 2%. Et avec cette pratique, c'est juste pour atténuer le coût de la population. Et même pour l'établissement des différents titres. Ce n'est plus comme dans les temps. Aujourd'hui, là, la population doit s'apaiser. S'ils ont un souci en rapport avec l'établissement des titres qui le viennent, ce n'est plus à un prix très exagéré.
Mmh. Et M. Rouetto, la procédure pour le paiement, c'est laquelle?
Bon, pour le moment, la procédure a été réduite. Un guichet unique. Tout celui qui a besoin d'un titre ou de nos services doit payer ceux qui sont taxés, parce qu'il y a une nouvelle nomenclature qui a été faite par le mouvement et ce n'est pas caché, c'est mis à la disposition de tout le monde. Vous pouvez voir ce qu'on doit vous taxer et vous les payez directement à la CADECO. Ce n'est plus comme on le payait auparavant à travers des tierces personnes.
Mmh. Oui. Enfin, vous maîtrisez un peu le contexte de la province du Sud Kivu. Les conflits armés sont signalés, notamment dans les territoires. La tendance pour, par exemple, les habitants des Kavumu, c'est des régions de la ville de Bukavu. Et la ville aujourd'hui fait face à une forte démographie. Est-ce qu'il y a une dynamique allant dans le sens d'élargir la ville pour permettre aux habitants qui y vivent de se sentir un peu en mouvement et de bien respirer? Est-ce qu'il y a une politique en ce sens pour élargir la ville de Bukavu, peut-être vers le sud ou vers le nord?
Oui, parce que il n'y a pas longtemps, vous avez vu les sinistrés de Kazingo. Le gouverneur les a remis dans... les a déplacés des Kazingo où les maisons étaient déjà cassées et les a amenés à Kabare vers Kashusha. Et je crois qu'il y a aussi bientôt il y a l'arrêté que le gouverneur va mettre qui est déjà peut-être signé qui va montrer là où on va lotir un espace de plus de 10 hectares et là ça va résoudre ce problème là.
Merci, merci beaucoup. Nous accueillons dans ce studio Maître Maurice Mérindi, qui est rapporteur adjoint du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. Maître Maurice, bonjour et bienvenue.
Merci Expedi, bonjour à vous, bonjour aux fidèles auditeurs de Radio Mandeléo, bonjour également aux invités présents au studio.
Nous accueillons également Joseph Baraka, qui est directeur de l'Institut Patrice Emery Lumumba. Joseph Baraka, bonjour et bienvenue.
Bonjour aux auditeurs, aux auditrices, bonjour aux co-débatteurs.
Augustin Moudekereza Kasenge, qui est chercheur au centre Angaza Institute. Il est également analyste sociopolitique. Augustin, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux co-débatteurs.
Avant de libérer les acteurs du domaine foncier, peut-être qu'il y a des avis. Maître Maurice Mirindi, quel commentaire par rapport au, justement aux dispositions qui ont été rappelées? Bon, pour la plupart, elles existent déjà, mais bon, les services sont passés pour les rappeler.
Merci Expedi, j'ai bien suivi. C'est vrai, on est en situation, dans une situation très difficile actuellement, en tout cas avec les différents services. C'est bon en fait qu'ils viennent, qu'ils parlent, mais la logique serait que ce qu'ils disent soit réellement ce qui se fait sur le terrain. Et malheureusement, très souvent, on vit au studio, on parle à la population, mais sur le terrain, ce qui se fait, c'est autre chose. Je regrette peut-être parce qu'il y a peut-être le chef de division, je crois, de l'humanisme qui n'est pas là. Parce qu'on a, reçu plusieurs lamentations des populations pour ceux qui veulent construire. Et je crois peut-être que le service devrait, à un certain niveau, être en mesure de dire à la population que voilà, celui qui veut construire une maison de tel niveau devra en totalité dépenser autant, ainsi de suite. Parce que quand la population est informée de ce genre de détails, on sait s'engager, on s'engage en connaissance des causes. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas une nomenclature en la matière. Donc, c'est laissé à l'appréciation de quelqu'un, et il vient, il vous dit non, j'arrête les travaux. Après, il vient, bon, on a décelé, et après avoir décelé, c'est pas l'autorisation. Après décelage, il faut encore l'autorisation. Et donc, les gens souffrent par rapport à ça. Et je crois qu'il serait mieux qu'on essaye de s'approcher de la population et comprendre réellement ce qui se passe. On a eu à dénoncer, mon collègue de la société civile d'Ibanda, on a eu à dénoncer les tentatives d'expoliation qu'il y a à Panzi. Je pense que vous êtes au courant. Mais fort malheureusement, tous ces spoliateurs, très souvent, ont votre soutien. Je dis bien très souvent. C'est pas que je dis que vous êtes avec eux. Mais je dis très souvent, tous ceux qui se lancent dans la spoliation ont, d'une manière ou d'une autre, un soutien de certaines personnes qui se disent influentes dans le mouvement. Et cela fait que lorsque nous, comme société civile, on dénonce, on est un peu bloqué et ce sont des menaces qu'on reçoit. Encore de vous. Maintenant, moi, je me dis, bon, venir au studio, parler, sensibiliser la population. Mais quand on veut que les choses changent, c'est pas ce qui s'est fait. Après, c'est vouloir une chose et son contraire. Par rapport à la maison du gouverneur, c'est vrai, c'est bon. Comme c'est reconnu par la loi, mais il faut aussi tenir compte du contexte de la province du Sud-Kivu. Parcelle à 20 mètres carrés, Haïko Fassé le Kuipata Bukavu. Est-ce pour autant dire aux gens de ne plus construire? Je ne sais pas. Qu'en est-il de ceux qui avaient acquis des parcelles avant, ne respectant pas les mesures? Est-ce que la décision du gouverneur va rétroagir? On ne sait pas. Donc on devrait être normalement édifié sur toutes ces questions-là. Des droits proportionnels. Parce qu'à votre niveau, lorsque les commissionnaires vendent des parcelles, ils vous approchent, ils vous paient les droits proportionnels. Comment vous acceptez l'argent qu'on vous donne alors que vous savez que les parcelles ne remplissent pas les mesures convenues? Donc il y a toutes ces questions qui, au départ, devraient, n'est-ce pas, être clarifiées avant peut-être d'arriver à ce niveau ici. Mais quand on vient, on interdit, mais demain, moi, quand j'ai acheté une parcelle de 8 sur 8, je viens chez vous, vous demandez les droits proportionnels, vous acceptez. Et donc vous acceptez que j'ai cette parcelle-là et que je construise. Donc, le gouverneur devrait commencer par vous, normalement, et les commissionnaires. Et la population devrait être la dernière phase. Mais dès lors que vous acceptez qu'il y ait morcellement et qu'on vous paye, donc vous autorisez, d'une manière ou d'une autre, que ces gens construisent. Maintenant, moi, je ne peux pas être là, je vous ai déjà payé, et puis du coup, vous venez m'interdire de construire. On a vu des gens qui ont des documents, qui ont des titres, qui ont des autorisations. Mais qu'on a scellé. Encore signé par les autorités. Je pense qu'il faut à un certain niveau qu'on se dise clairement les choses et en fait qu'on évite de rester dans les imaginations. C'est très bon qu'on prenne des mesures, c'est très bon également qu'on encadre ces mesures. Mais si le gouverneur doit décider que sur le terrain c'est pas ce qui se passe, à un certain niveau on va dire qu'on est en train de blaguer.
Merci beaucoup Maître Maurice Mirindi pour ce commentaire. Les amis présents au studio y réserveront sûrement une réponse ou une suite le moment venu. Joseph Baraka.
Oui, bah, personnellement, je prolonge l'avis déjà de Maître Maurice et je reviens sur la question que vous avez posée au sujet de la démographie dans la ville. On sait tous que Bukavu n'a pas été prévu pour le nombre de gens qu'il a. Donc c'est vraiment de la logique basique. La logique basique voudrait que une mesure aussi importante comme celle-ci soit accompagnée par une politique volontariste et forte et de l'extension de la ville. Cette question, on y est déjà revenu, déjà ici même, je me souviens, avec avant que la situation actuelle ne soit comme elle est. On posait toujours la question de savoir si, vous parlez par exemple de 10 hectares qui pourraient être mis à disposition, ainsi de suite. Nous, la population dont on a besoin, et nous qui pensons un peu le devenir commun, on a besoin, c'est pour ça que je dis que je prolonge l'avis de Maître Maurice, que nous ayons que nous voyons ça dans les faits. Vous voyez, quand on parle de 10 hectares, ce dont nous avons besoin, c'est pas qu'on morcelle et puis après, et les canalisations, c'est, que ce soit pensé après, nous voudrions voir, par exemple, une extension. Donc, que l'État précède avant que la population ne la précède. Voyez un peu ce que je cherche à dire. Et l'État la précède comment? On se dit demain, où est-ce qu'on pourrait mettre un marché? Et on voit déjà quelque chose qui est en train de se faire. Où est-ce qu'on pourrait mettre des écoles? Où est-ce qu'on pourrait mettre des routes principales et des sentiers, ainsi de suite? Après, on se dit, sur ces sentiers, ah, il y a un barcel de, par exemple, des morcellements possibles à tel niveau, à tel niveau. Là, on sent qu'il y a une logique. Mais vous ne pouvez pas dire, vous interdisez des morcellements dans la ville. En même temps, il n'y a pas de politique concrète, comme ça a été avant, d'extension de la ville. Et en fin de compte, on se retrouve piégé entre nous. Donc, le maître Maurice est revenu sur les autres questions, mais je finis maintenant pour une question essentielle pour moi, c'est celle qui porte sur les cadastres numériques. Vous voyez, par exemple, dans la ville de Bukavu, et peut-être moi-même qui vous parle, suis concerné aussi par le cas où je l'ai vécu indirectement, c'est qu'il y a eu nous avons eu à avoir des procès. Voilà, par exemple, comme vous le disiez si bien, par exemple, sur les limites, sur la violation même parfois de nos titres fonciers. Vous avez par exemple un titre qui vous est reconnu comme ça, et puis un autre voisin vous oppose un autre titre qui viole votre propre. Vous voyez, par exemple, on vous dit que une partie de votre parcelle qui vous servait. Je ne vais pas utiliser le mot servitude, mais je le dis alors sous votre contrôle, parce que vous pouvez me donner le terme, vous pouvez me passer le mot. On transforme votre voie qui conduit chez vous, qui vous est privée, en servitude, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti mettre une petite barre sur son contrat, et il a fait faire aussi au niveau du cadastre. Et tous ces conflits-là existaient. Nous nous sommes plaints parfois, et j'ai vu des gens se plaindre. Quand on va me faire maintenant le cadastre numérique, je suppose que vous allez venir dans nos domiciles, vous allez nous rencontrer chez nous, et vous allez nous poser la question sur base de quoi nous avons nos droits là-bas, et pour que vous fassiez tous les mesurages. Comment allez-vous procéder pour ceux qui, par exemple, n'avaient pas encore eu de jugement définitif et qui sont en attente parfois de ces jugements là-bas ou des procès qui étaient en cours alors qu'on connaît l'état de la justice actuelle. Et je me pose la question si tout cela ne sera pas aussi objet d'autres malversations, d'autres petites choses comme ça. Pour la dernière, c'est ça en fait l'argent. Et pour la dernière chose, je voudrais que les gens du mouvement qui vont procéder, qui font tout ce travail, qui est central et essentiel dans l'administration, et d'ailleurs tous les autres qui nous écoutent, sachent qu'ils parlent à des gens qui ont des droits, égal en droit et à dignité. Et je le souligne, vous représentez l'autorité, vous êtes l'autorité. Et l'autorité est au service de la population. C'est pas la population qui est au service de l'autorité. Et donc, quand vous nous parlez, je le dis parce que moi je l'ai vécu, vous voyez, et je suppose que d'autres l'ont vécu. Vous devez nous parler en sachant que on parle au boss, le peuple il est souverain. Faut pas parfois intimider trop les gens qu'on se demande si on est en. Oui, je comprends que c'est la révolution, mais il faut parler aux gens en leur disant voilà, je vous explique, voilà, c'est comme ça, voilà, votre droit c'est comme ça, si vous avez une plainte, vous allez la faire auprès, comme on vient de nous dire, par exemple. Si vous voulez acheter une parcelle, là, c'est une erreur, vous devez procéder comme ça. Vous nous excitez. La pédagogie, on se comprend, on se complète. Mais après, j'ai vécu trop de situations d'intimidation que parfois, je me dis, si moi-même, je ne dois pas me révolter aussi.
Merci beaucoup, Joseph, pour ce commentaire. Augustin, un commentaire avant de donner parole aux amis pour clore cette partie de notre émission.
Bon, je vais dire que je n'ai pas maintenant de commentaire. Je suis intéressé par la question qui est débattue. Et je pense d'ici à un mois, il y a un article qui sera publié, qu'on a écrit. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait revenir et discuter. Parce que nous avons discuté là-dedans de la question du partenariat public-privé autour du foncier de l'État. Et je note en passant aussi que c'était ça le sujet de mon mémoire de master.
Merci beaucoup.
Et donc, maintenant, je ne discute pas, j'attends l'apparition du papier et puis on pourrait, je pense qu'on aura un moment d'en discuter.
Merci, Jospin. Vous avez suivi les avis des uns et des autres, les avis qui sont passés au niveau, par exemple, des contentieux qui sont... en instruction, des affaires qui sont en instruction avec le cadastre numérique. Vous avez suivi l'utilité, par exemple, d'élargir la ville de Bukavu et tout le reste.
Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup encore une fois. Je trouve que c'est intéressant quand le rapporteur de la société civile s'intéresse trop du foncier, c'est la population, ça montre une volonté manifeste de la population par rapport à la gestion meilleure du foncier. Par rapport à la spoliation, Maître Maurice, qui dit que la spoliation est faite avec nos services, en fait, je pense qu'il faut...
Je dis très souvent.
C'est ça, très souvent. Voilà.
En complicité.
Oui, en complicité. Je pense qu'il faudrait différencier les contextes. Quand le gouvernement de Kinshasa gérait, vous comprenez que c'est tout le monde qui devrait aller à Kinshasa négocier avec le ministère de l'urbanisme ou de l'habitat, là où on fait des désaffectations, n'est-ce pas, sans une procédure préalable par rapport aux désaffectations. Et quelqu'un vient avec une arrêté, on vient imposer au service l'arrêté. Nous sommes les exécutants. Les affaires foncières ne peuvent pas arrêter cette personne qui est venue avec un document légal et on n'a qu'à accompagner cette personne. Mais actuellement, aller à la coordination du mouvement de l'AFCM23, allez voir si le coordonnateur peut vous faire un tel document. Et donc, c'est une révolution. On revient maintenant à la procédure. Et pour avoir un partenariat public-privé aujourd'hui, ce n'est pas facile. C'est une longue procédure et je ne vois quelqu'un qui peut s'aventurer, et, disons, à emprunter cette voie parce que... Mais aussi par rapport aux parcelles de moins de 20 hectares, vous dites que ça n'existe pas et que c'est difficile de trouver de telles parcelles. Je pense que toute chose commence par une volonté. Si nous, population de Bukavu, nous voulons réellement urbaniser. Nous voulons corriger l'urbanisation de la ville de Bukavu. Nous devons d'abord avoir une volonté. Parce qu'il y a déjà une volonté politique. À l'époque, le gouverneur ne pouvait pas prendre une décision pareille. Mais aujourd'hui, quand le gouverneur se lance, il sait sur le plan politique quelles sont les garanties qu'il doit donner à la population. Et donc, le 20 sur 20, ce n'est pas que s'il y a un morcellement et que quelqu'un avait 5 sur 5, 10 sur 10, et qu'on ne va pas autoriser les constructions. Il y a aussi le système de copropriété qui est autorisé par la loi. Vous pouvez prendre le 20 sur 20, vous l'achetez à 4, à 5, même à 10, et là vous construisez des appartements, vous laissez des espaces bien aménagés par les architectes, et la loi autorise que chacun puisse avoir un titre de propriété, même en termes d'appartement. On peut faire un morcellement vertical. C'est légal. Et donc je pense, pour des cas pareils, c'est question de dire à la population de venir auprès de nous, disons les techniciens du gouverneur de province, on va leur donner des conseils, on dit non, par rapport à votre cas, voici ce que vous devez faire. Et par rapport à la perception de frais, en rapport avec de telles parcelles, bon, nous ne percevons pas les frais aux affaires foncières. Il y a la DPMR qui est là. Peut-être s'ils étaient ici, ils seraient les meilleurs à répondre à cette question. Je voudrais revenir sur la question technique qui me revient parce que je suis du cadastre, le cadastre numérique. Comme l'a dit, c'est encore monsieur...
Joseph.
En fait... toutes les villes africaines résultent des grands villages. Sont rares, sont rares les villes qui ont été conçues comme villes. Sont rares. Si vous sillonnez toute la République démocratique du Congo, vous allez trouver que on voit une, disons, un village, une cité, et en termes de démographie, on dit non, non, on crée une ville. Mais une ville qui ne répond pas aux normes réellement de la ville, en termes de, donc les politiques ne voient que la démographie. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes d'urbanisation de ces villes. Prenons la ville de Bukavu. La ville de Bukavu a été conçue comme une ville parce que c'était le chef-lieu de province du Kivu. Et comme je l'ai dit avant, la ville a été morcelée par les fils de Bukavu. Donc l'urbanisation de la ville a été torpillée par nous-mêmes. Et qu'est-ce que le cadastre numérique ou la numérisation du cadastre va faire sur cette ville? L'ami a dit qu'il y a ce qui avait des conflits. Peut-être que nous voulons numériser la ville alors que les uns n'ont pas encore de décision, disons, de décision de justice. Je pense que cela n'est pas un grand problème. L'objectif de numériser les plans cadastraux, l'objectif de numériser les cadastres, c'est de constater ces irrégularités. C'est comme si on prenait une photo. On ne va rien changer jusque-là, parce que la numérisation a des étapes. On ne va rien changer. On envoie les techniciens sur le terrain, ils récoltent les données géospatiales de l'existant. On constate d'abord les irrégularités. Et après, on prend ces données, on les soumet aux autorités politiques pour une prise de décision. Parce que tu as déjà construit, certainement que tu as déjà un titre de propriété. Le géomètre sympa de ses prérogatives de venir qui dit que non, ici tout à pizza barabara et que tu dois démolir. Non, nous on donne ces informations à l'autorité et l'autorité ça lui permet de prendre une décision. Mm-hmm. Et si il y a une voie publique qui va passer, Mounyumbayako, il y a une procédure, on doit vous indemniser si vous avez un titre de propriété. Donc c'est ce que la numérisation du cadastre va faire. Donc, si je
beaucoup.
Peux me répéter, on prend les données de l'existant et ça constitue une base des décisions des autorités politiques. Voilà.
Gabine Tela, y a-t-il des éléments additionnels?
Oui, je voudrais apaiser Maître Maurice quand il a fait allusion aux dossiers qui sont pendants devant les cours et tribunaux. Et ce sont des dossiers antérieurs. Qu'allez-vous faire? Mon frère maître, je vous assure, un dossier qui est pendant, tant qu'il n'y a pas un jugement, le conservateur ne peut poser aucun acte. Il doit se rassurer qu'effectivement, il y a un jugement coulé en force des choses jugées. Donc il n'y a pas encore une opposition ou un renvoi. Et là, le conservateur exécute. Donc, vous devez avoir vos apaisements. Un dossier conflictuel, pendant, on doit apurer la procédure.
Merci beaucoup. Weto, vous avez un ajout?
Oui, j'ai entendu mon confrère, le maître, dire qu'il y a des parcelles ou des documents qui existaient déjà et peut-être on a payé. Et l'autorité a voulu d'abord qu'on suspend tout. On va vérifier chaque cas. Hein? Celui qui est en ordre et qui est en règle, on interdit à personne de construire, mais qu'il puisse construire suivant les normes voulues par l'autorité.
Merci beaucoup. Nous allons accueillir à titre exceptionnel le chef de division de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire, ingénieur Imani Giovanni. Bonjour et bienvenue. Ingénieur, utatuelezea mkiswahili kini ya hiyo hatua yenye gavana Patrick Busu Bwangu alikamata kuhusu mambo ya udongo hapa mjini Bukavu.
Asante sana. Nafikiri kukamata hii hatua ni ambutiaje. Sio atakavuyo yenye iko yambitikana. Watu wanajenga kiolela. Unalamuka, unajenga, uko na 5 kwa 5. Mimi parfois unakutana watu wanaweza kunafungiana ma servitude wako na 20 cm jua nini habaini za tani mizi ma dimension zenye mimi arete inaomba So anaamua kusimamisha tuangalie kaparka c'est-à-dire quoi tone mtu mwiko na jenga d'abord analyse dimension ou bien ni mezo ni kwa iko anku iko inaendelea soit huyu mtu iko mursema soit hii mursema nayo ifanywa namna gani est-ce qu'iko iko déjà na iko na norme urbanistique ile baki tunaweza tunajifunza kaparka kwetu sasa inakuwa tunaregistrer kila watu tushe mutie mu system maraki tukwa dokima zake zote meme les photos de la maison yiko existant yiko na jenga meme parcelle kani parcelle wakati tunakutana na liwali tunaongelea kwa hili ruwa takutana na kia ndane na ACGT pale pale menu on parle avec le system tunaingia ndani naambia parcelle hii na hii iko na hii na hii na hii na hii tunaangalia est-ce que iko sawa iko sawa hii mtu anaendelea après les analyses je sens dire joka parka yeye anasema lakini kwa sasa ni watu kwanza wajue kwanza kuexplica ama kujenga fuko huko ku norme na ujue kurajenga nini est-ce que tatusaidia hii reform mimi mashantia za mingi unakuta watu wangali wanajenga mafosi ptike kurani mu salo haiko vitu abata wajue konsekansa hii kitu siku nyumbi na yara 4 nivo haina fasi ya kurespire itapiga njuma returu na returu takutana nyumba uchinjia mnyumba mtu nyumba mtu mwanaonekani mzima me kwake ni harufu tu ya toileti so hii vitu yote ifatu tunajifunza tunaona mimi le pla site amene le pla chez nous tunaianalize d'abord fosse yako iko wapi po perdi yako iko wapi kuko mailima mingi zenye tunafuata kusudi tukupatie autorisation des fois ça vient tuko turagombana nabo ni beye bangali en cours me haba ku respecter bile bitu yote na ifo leta tunabasaidia parce que yenyine nikutana ukutana je m'en étais prise avant mais ivi tugombana nabyo unaambia mtu hawezi kujenga ile sema goma bako na nani bako na
kwa parcelles za mingi mingi
ndio na babo bako basirimu na nafiye mchitu hawezi kujenga na force juu ya nani ya salo be hapa bana vifanya so, hapa tuko kukomba sasa ya kufundisha njo watu
na sasa ingénieur kuko mwalika moya Joseph alisema nini mnafanya kwa kuhimiza watu kwa kuwajulisha haki zao parce que tendance ni alikuwa na denoncer ni kuona kitu tu kidogo wanafunga mtu juu ya alifanya kitu fulani nini mtafanya ili watu wajue haki yao na maobligation zao fulani fulani na ili mjue tu tuibebe mbele
nafikiri kitu ya kwanza sio nitaka mimi kufungana kitu ya kwanza
au kupiga mtu fimbo au kufunga vitu mwa vile
tuko mperiode ya kufundisha et même les gens wakati wako kutere toujours mimi nawaambia hai brutalité mwachane nayo ingia kutere omba mtu dokima zake ona biko nafanya kama biko kumustari ni sawa na kama iko kumustari angalia jinsi ya kumsaidia mimi yale fois haiko yale fois kana ni force inatumikishiwa c'est-à-dire quoi kuko ajamu ataingia ataomba mimi dokima baambia atuwezi yale fois mimi banaambia mamaso bapige bari baja ni makazi nyi tuna recevoir mimi sioni kama mimi nzi kujistro tuko tunaongea siwezi kukwambia seme nipatie dokima za chantier unipatie kisha nirudie nikwambie seme juu unakosa hii na hii na hii ngoja nikufunge haiko vile so il faut watu wakwe honnête abatu biko na siba bako nafungiwa sawa sawa hii tuko tunaongea kuko watu bako nachangia mu barabara basha funga barabara ishi ya kaduto utafani akwambia mimi nitafani mama sio unajua bovu hii ya banani ya watu ya kuchanga mabeto tunamwona tunamfunga aende akamate leso na mtu mwingine aone kama kuchangia kwa barabara ni mbaya me nani politiki yetu ni kufundisha njoo watu ile mezini akamatiwa anka kuna kwa insida yenye iko insupportable.
Merci beaucoup, tunashukuru ingénieur Imani Giovanni kwa hiyo message anatolea population hapa mjini Bukavu. Nous vous disons également merci. En tout cas, c'est la toute dernière question. une question qui nous vient d'un auditeur qui veut savoir, à la réunification du pays, les titres français délivrés par le mouvement seront valables? En fait, je ne voudrais vraiment pas que vous puissiez répondre à cette question. C'est une question qui sera répondue par un des invités qui vient d'entrer dans ce studio, Ignace Mupira Mambo, qui a été parlementaire, justement, dans le Parlement de la Transition. C'est un ancien vice-gouverneur du Sud Kivu. Ignace Mupira, bonjour et bienvenue à vous dans ce studio.
Bonjour Expedi, merci pour l'invitation. Je salue les auditeurs de Radio Mandeléo et les co-débatteurs autour de cette table.
Vous aviez suivi pratiquement la communication des experts du domaine foncier autour de certaines dispositions anciennes et nouvelles arrêtées par l'autorité provinciale autour du domaine foncier dans la ville de Bukavu. Mais enfin, pour clore cette partie, il y a cet avis, ou disons cette question de cet auditeur qui veut savoir qu'à la réunification du pays, est-ce que les titres délivrés par l'AFCM 23 seront validés? C'est la question que nous venons de recevoir.
Ah oui, ben merci. Nous sommes dans un état d'expérience et ce n'est pas la première fois. On a connu d'autres situations difficiles de 96 à 97 et de 98 à 2003. Après, il y a eu le dialogue intercongolais de Sun City. J'étais député pendant la transition. Le dialogue, ce n'est pas seulement le silence des armes. La fin de la guerre, ce n'est pas seulement le silence des armes. C'est la régularisation de tous les actes posés par tous ceux qui ont eu à gérer un espace de l'État dans quelques coins qu'il s'agisse. Que ce soit à l'ouest d'ailleurs, que ce soit, disons, du côté du gouvernement à Kinshasa, que ce soit l'espace administré par l'AFCM 23. Ceux qui administrent principalement l'espace ici, le Nord qui vaut et le Sud qui vaut principalement, sont tenus de poser des actes qui ne pourront être valables, qui ne sont valables, ou qui ne pourront être validés au moment de la réunification du pays, que si ces actes respectent les lois du pays. Et quand je lis les actes posés par l'FCM 23, les décisions de nomination, peut-être dont on pourrait en parler ici, et tout ce qui se passe dans tous les secteurs de la vie nationale, quand il se réfère à la Constitution, aux lois de la République, je ne pense pas que l'FCM 23 invente aujourd'hui la loi foncière. La loi existe. Seulement, c'est nous, les citoyens, qui ne respectons pas les principes édictés par la loi. Et pour Bukavu, c'est une situation particulière. Je crois que nous sommes la seule ville où se passe ce que l'ingénieur est en train de décrire ici. Je pense même que nous sommes en train de contaminer Goma, nous contaminons Kinshasa, et partout on parle de morcellement. Le terme morcellement ne date pas de 30 ans. On n'en parlait pas ici. J'ai suivi l'émission, même si je suis venu avec un léger retard, je m'en excuse. On a parlé de 40% des maisons de l'État. Quelqu'un a dit qu'il ne reste pas 40% des maisons de l'État ici. Je vous ai encore dit que quand j'ai fait la remise et reprise avec le gouverneur Tshibalonza Biaterania, j'ai laissé 136 maisons de l'État. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on a fait ma couille, j'ai dit, mais quand on fait la remise et reprise, je donne les copies à celui qui me remplace, je pars avec mes copies, je ne les déchire pas, donc je suis capable de prouver ce que je suis en train de dire. À Bukavu, c'est une culture. Bukavu, c'est une culture, et moi j'ai dit, ce problème-là, c'est culturel. Pour ceux qui vont en Belgique, à Londres, c'est pas à Paris, à Bruxelles, 80% des personnes qui vivent dans ces villes-là sont des locataires. À Bukavu, si vous êtes locataire, c'est une injure. Même si, moi je dis souvent, il ne reste que le lac qu'on n'a pas encore morcelé. Alors, monsieur l'ingénieur, vous avez du pain sur la planche. Je me suis souvent demandé si, dans le cours d'architecture, à Bukavu, et pas ailleurs, et dans le cours de bâtiment à Bukavu, il n'y a pas un dernier chapitre où on dit, vous avez déjà étudié comment construire. est-ce qu'il n'y a pas un chapitre où on dit comment détruire aussi ou comment contribuer à tricher avec le propriétaire de la parcelle? Parce qu'ils ne le font pas seuls, ils le font avec la complicité des maçons, de tous les agents, j'ai entendu des agents parler ici, cadastre, affaires foncières, etc. Et quand on en parle, quand on parle de l'implication de madame la notaire, c'est comme si c'était une nouveauté. Mmh. Mais les actes que vous posez, ce sont des actes hautement juridiques.
Justement.
Et on l'appelle notaire parce que c'est la mémoire. C'est la mémoire de la ville pour tous les actes à caractère successoral, à caractère juridique, etc. Et donc, d'ailleurs, les chefs de division des affaires foncières, cadastre et urbanisme, ce sont des officiers de police judiciaire. On ne prend pas un citoyen qui a fait la philosophie. Et ben, enfin, je n'ai rien contre les philosophes. Moi, j'ai fait les lettres. Hein. Si vous voulez faire de moi un ingénieur, je vais refuser. Hein. Aujourd'hui, on dit « Vionité tout pas le coup collard, un tâche débrié les couler hein, ». N'est-ce pas hein. Les gens les plus incompétents choisissent de prendre, de gérer des secteurs très compliqués et techniques simplement parce qu'il y a de l'argent. Et donc, les actes que vous posez aujourd'hui, seront réexaminés au moment de la réunification du pays. Je n'invente rien. Ceux qui sont à Goma le savent. Ceux qui signent, moi j'ai ici l'accord, tous les accords qu'on signe. Tous les accords qu'on signe, on note cela. Pourquoi il y a des commissions des experts dans le secteur militaire? On dit commission de vérification, etc., etc. C'est pour que les gens regardent, mais en fait, la guerre, il faut la faire proprement.
Merci beaucoup.
Il faut la faire proprement. Mmh. Et tous les actes que pose le gouverneur, en sa qualité de gouverneur, avec tous les services qui fonctionnent encore, il y en a qui ne fonctionnent pas, doivent respecter les lois du pays, les lois de la République démocratique du Congo, en commençant par la Constitution et les autres lois de mise en œuvre qui existent dans tous les secteurs, y compris dans le secteur foncier.
Merci beaucoup pour cette réponse donnée après avoir reçu la question de cet auditeur. Tutamali Zaï, parti à Kipindi, Pays Développement, ingénieur Imani. On a quoi dans nos Guinée Congolaise?
Oui. Niko ataka niafikiri nibaoneshe na population mwe atakuwa na besoin akui. C'est wakati tunasema avis urbanistique. C'est quoi? Na décision de mouvement. Maki ni wakati unakuya kuba expert. Comme à notre division. Kuya tukusaidie. Par exemple, je vais vous montrer. Na sawa hii ni mouvement. Iko itafanywa la bot.
Bon, bah, auditeur, avez-y, on a, c'est vrai, au cours, on a partagé l'image qu'on a invité comme studio, mais tout à l'heure, on a expliqué l'image gagne.
On a une parcelle, on a 50 fois 30. Maintenant, où tu peux te morceler, il y a ta fagne à y vivre. Qui a moutou, qu'on va servir d'idée, il y a des parkings, il y a quoi qu'on soit, n'a fait tiri, et qui tout morceler, a ta idée, il y a péki. Kwa connaissance yake, kwa ujuzi yake, inaishia hapa. Je vais vous montrer, tusumaye, tuko tunafanya nani ya kashusha.
Tunarudia mwile kuko mtu maluliza juu ya ile plan ya kuelargir vile ya Bukavu. Est-ce que tuko na ile muradi ya kuzugeza vile yende kama mangambo nyantende ya mangambo ya Kavumu?
On a déjà commencé. Nataka nikoneshe...
Bon, merci beaucoup, ingénieur.
C'est lotissement, non?
Dans l'image à lotissement, vouloir mettre en œuvre Kashusha accent.
Ah, toi, mon serment, tu sais dire, vous avez des divisions, tu sais dire comment on fait les morcellements.
Merci beaucoup. Nous vous disons merci et vous souhaitons un excellent dimanche. Vos bureaux sont accessibles et donc pour les questions additionnelles, prière, vous dirigez tout droit au bureau du service de l'urbanisme et habitat, aménagement du territoire, au bureau du cadastre, au bureau du conservateur des titres immobiliers pour être fixé davantage sur la question qui vous concerne. Joseph, c'est plutôt Jean-Claude Daguet. Nous observons une pause et juste après nous revenons pour la suite de l'émission Paix Développement de ce jour. Oh,
Jambo Bwana means hello, Mr. Swahili ni rahisi. It's no tongue twister. No problem.
Hakuna matata.
Welcome friend, it's karibu rafiki. Let's have some chai with lots of iliki. No problem.
Hakuna matata.
Hakuna matata means there's no problem. Simba is lion and that's our emblem. No problem.
Alright. Hakuna matata.
Roast meat is nyama choma. The drums that we play, we call them goma. No problem.
Hakuna matata.
Kwaheri ni rafiki means goodbye friends. Nyimbo imekwisha, this is where the song ends. No problem.
Hakuna matata.
So long friends, kwaheri ni rafiki. God bless you. Mungu awabariki. No problem.
Hakuna matata.
Jambo bwana means hello, Mr. Swahili ni rahisi. It's no tongue twister. No problem.
Hakuna matata.
Welcome friend, it's karibu rafiki. Let's have some chai with lots of iliki. No problem.
Hakuna matata.
Hakuna matata means there's no problem.
9h12 minutes à Bukavu. Merci pour votre attention, très chers auditeurs. Vous suivez Radio Mandeleo sur 88.8 et 91.7. C'est la suite de l'émission Paix et Développement de ce jour. Vous l'avez donc entendu, des nouveaux comités de gestion ont été constitués dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, que ce soit dans la ville de Goma comme dans la ville de Bukavu. La décision concerne 10 établissements à Goma et Bukavu, avec la nomination des directeurs généraux ou recteurs ainsi que des secrétaires généraux administrateurs du budget et responsables de la recherche. Pour ce qui est de la ville de Bukavu, Ali et C. Bukavu sont nommés aux fonctions au regard de leur nom, les personnes ci-après. Le professeur Somora Patrick, directeur général. Professeur Balia Mambotulina, secrétaire général académique. Professeur Bengea Machozi Deo, secrétaire général à la recherche. Monsieur Rwaguruka Laban, secrétaire général administratif, et le professeur Ekyo Chisa Direct, administrateur du budget, sont nommés l'Institut supérieur des techniques médicales de Bukavu, Istem Bukavu, comme directeur général, le docteur Kiambikwa Bisangamo Celestin, secrétaire général académique, le professeur Wimba Kayange Luisette, chef des travaux Ndachetere Mutayongwa John, secrétaire général à la recherche. Madame Avoki Fatima, secrétaire général administratif, et Monsieur Amani Lushoka Vital, administrateur du budget. À l'ISP Bukavu sont nommés le professeur Amisi Safari, directeur général, le professeur Lumonge Désiré, secrétaire général académique, professeur Bapolisi Baouga Paulin, secrétaire général à la recherche, chef des travaux Mutebusi Ngenda Alexis, secrétaire général administratif, et le professeur Usungo Ulungu Jacques, administrateur du budget. Sont nommés à l'ISP Bukavu le professeur Mouissa Severin, directeur général, le professeur Munga Matumwabiri Roger, secrétaire général académique, professeur Mouinduka, secrétaire général à la recherche, chef des travaux Kito Kadarius, secrétaire général administratif, et le chef des travaux Bukondi Ngwanga, administrateur du budget. La décision concerne également les établissements du Nord Kivu, principalement de Goma, mais nous vous épargnons des noms de ces établissements du Nord Kivu et des personnes qui ont été fraîchement nommées. Commentaire, Ignace Mupira, vous êtes du domaine de l'enseignement. Quelle a été votre impression en lisant les noms, la décision portant nomination des différentes personnalités dans les établissements d'enseignement supérieur à Bukavu?
Ben oui, j'ai pris je n'ai pas de position à donner, je n'ai pas d'avis pour ou contre. J'ai pris acte, comme tous les autres actes administratifs qui sont posés par la FCM23 dans tous les secteurs. Là, il s'agit du secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Il y a un problème de fonctionnement quand je lis les motivations, parce que la décision est motivée. J'ai lu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, comme je disais ici, ils font référence également au texte régissant l'enseignement supérieur
universitaire, recherche scientifique et innovation en République démocratique du Congo. Je ne peux pas avoir des réactions émotives du genre Binini Bili Bananjafani, est-ce que Binabangali? Oui, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, je suis du secteur, c'est un problème de fonctionnalité. Il y a des établissements qui souffrent de l'absence de l'une ou de l'autre autorité. DG par-ci, recteur par-là, secrétaire administratif à gauche, à droite, telle ou telle personne, absente de Bukavu pour des raisons certaines, des raisons de sécurité, en tout cas pour des raisons de force majeure pour la plupart. Il y en a qui ne sont pas là contre leur propre volonté, mais il faut que ces établissements-là fonctionnent. Je ne suis pas propagandiste de tel ou de tel mouvement, je ne suis pas propagandiste de la FCM23, mais je constate simplement que depuis que la guerre est arrivée, les établissements d'enseignement supérieur sont un secteur qui n'a pas été touché par l'influence du mouvement rebelle ou révolutionnaire, comme ils aiment l'appeler. Moi, j'ai étudié à l'époque où le Zaïre, au Zaïre, il y avait un seul parti. On appelait ça parti-État. Ce que vous appelez aujourd'hui porte-parole des étudiants, ça s'appelait Jeunesse étudiantine du mouvement populaire de la Révolution. Et donc, le MPR était jusque dans les écoles primaires, les écoles maternelles, etc. Moi-même, j'ai été élu dirigeant sectionnel de la GMPR étudiantine de l'ISP de Bukavu. Et je crois que c'est différent. Je n'ai pas encore entendu un slogan ou une séance d'animation avant les cours ou un chant à l'honneur du mouvement, etc., etc. Donc, je peux dire quand même que c'est un secteur qui est jusque-là plus ou moins épargné par les influences idéologiques. Ceci n'exclut pas qu'il y ait des personnes à titre personnel qui ont des ambitions de diriger tel ou tel établissement et qui ont des relations ou des acquaintances avec telle ou telle personne au niveau de Goma qui font pression pour qu'ils puissent disons remplacer telle ou telle personne absente. Je constate également que les personnes qui sont nommées sont pour la plupart, à 80% si je ne me trompe pas, des professeurs des mêmes universités et donc les mêmes personnes nommées ou pas, ce sont ces personnes-là qui enseignent dans ces universités-là. Et lorsque nous délivrons les diplômes à ces étudiants-là, ces diplômes sont signés par les jurys constitués des professeurs de ces établissements-là, signés par les directeurs généraux ou les recteurs de ces établissements-là, transmis au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire à Kinshasa. Je n'ai pas appris que les autorités de Goma ont interdit la transmission des diplômes à Kinshasa. D'ailleurs, tout le monde est payé par Kinshasa. Ce n'est pas un secret. Je peux rappeler que les examens d'État sont organisés ici, à Kinshasa et à travers toute la République. Ici, les examens d'État sont sécurisés par les forces de sécurité de l'FCM23. Je crois qu'ils sont escortés par des inspecteurs. C'est peut-être un détail que je ne maîtrise pas. Mais on ne peut pas envoyer des colis comme ça. Certainement que les colis sont...
Parce que nous apprenons que les mâles viennent, par exemple, de Beni et quittent la zone sous administration du gouvernement de la République vers les zones sous contrôle de l'FCM23 par voie routière. Et je ne pense pas que c'est par une machine ou un robot que cela se fait.
Il y a au moins un chauffeur, il y a au moins un mécanicien, il peut y avoir un inspecteur qui vient de Kinshasa et qui rentre avec les mâles à Kinshasa. Et lorsqu'on proclame les examens d'État, je crois qu'il y a des fêtes dans les villages.
On ne fait pas échouer les enfants ou les finalistes.
Non, mais on ne dit pas non, ce sont des enfants sous l'administration rebelle, etc. Et ça se fait. Donc il y a des secteurs comme ça, comme la santé, l'éducation, je crois même l'agriculture, où que vous le vouliez ou non, ces secteurs doivent être administrés.
Il y a des programmes de vaccination qui se déroulent en ce moment. Ces vaccins ne sont pas fabriqués à Shabunda ni à Kamituga. Ils viennent de très loin. Ils traversent monts et vallées. L'argent ne vient pas nécessairement de Kinshasa, ni l'FM23 d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont les moyens d'affronter les épidémies, etc. C'est des superstructures telles que l'Organisation mondiale de la santé qui dicte sa loi. Dans le secteur de l'enseignement, c'est une obligation de respecter les principes de l'UNESCO, de l'UNICEF. Voilà pourquoi, même pendant 5 ans, quand il y avait le RCD ici, ils n'ont jamais imaginé fabriquer leur propre examen d'État, ni leur propre diplôme. On leur a simplement dit, si vous faites ça, on ne reconnaîtra pas. Donc ne vous amusez pas, ça ne sert à rien. Vous allez mettre en difficulté des générations entières. S'agissant donc des actes posés, le problème pour moi, c'est que ce sont des actes qui doivent respecter, qui doivent être valables.
Merci
pour le plan administratif et juridique.
Merci.
Si ces actes respectent les procédures, je crois qu'on n'a pas pris un militaire, on en a fait un recteur de l'UOB. Le professeur Mano Machumo est bel et bien professeur ordinaire de l'ISP Bukavu. Il est chimiste et je crois qu'il a formé beaucoup de chimistes ici. Tous les autres qu'on a vus...
Il y a le professeur, par exemple, Munenge Mudage Florence, qui est secrétaire général académique à l'UOB.
Il est resté. Je crois qu'on a puisé dans le personnel que bon, doivent-ils prendre ces actes-là? Pour certains, non. Pourquoi? Est-ce que Binabangalia, les gens disent ça un peu en swahili.
Merci beaucoup.
Non, sans raison non plus.
Est-ce que Binabangalia? Non. Pour régler cette question-là, de qui doit faire quoi? Il faut mettre fin à la guerre.
Absolument.
Et donc, il faut mettre fin à la guerre, réunifier le pays pour que on ait une seule autorité qui puisse prendre ces décisions à travers toute la République. Et les voix que les gens refusent malheureusement, le dialogue, etc. Moi, j'ai encore rappelé ici que le dialogue, c'est pas seulement le silence des armes. C'est aussi la vérification de tous les actes qui ont été posés par ceux qui ont administré.
Merci beaucoup.
Ces espaces qu'ils contrôlent aujourd'hui.
Merci. Maître Maurice, je crois que Ignace a répondu à une des préoccupations qui a fait la ronde des réseaux sociaux. C'était celle de dire qu'on allait désactiver certains professeurs en les accusant d'avoir fait allégeance à la FCM 23. Nous l'avons lu un peu partout. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez que ces nominations sont de nature à stabiliser davantage ou d'implanter un climat de paix et d'apaisement dans les institutions qui ont été concernées par les nominations?
Merci, Expedi. Je ne pense pas que Levy a répondu. Je pense que Levy Ignace a donné son point de vue.
Oui, c'est à lui.
C'est pas que son point de vue, c'est une réponse.
Oui, oui.
En fait, c'est un peu complexe. Vous savez, lorsqu'il y a une rébellion, lorsque les rebelles parviennent à prendre une entité, ils cherchent par tous les moyens comment administrer cette entité. C'est vrai, j'ai senti en fait dans le propos Divier qui veut montrer qu'il y aurait une certaine complicité entre le mouvement et le gouvernement par le fait qu'il y a une collaboration qui est faite dans certains secteurs. Le vieux a parlé de secteur de la santé, il vient de parler de secteur de l'enseignement. Bon, peut-être, parce qu'on ne sait pas vraiment. L'M23 nomme le gouvernement paye, ça dit quelque chose. L'M23 nomme le gouvernement paye. Ceux qui étaient nommés par le gouvernement sont démis de leurs fonctions.
Je ne sais pas.
Non, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, je suis en train de le dire. J'ai vu le prof Nyaluma et les autres qui faisaient partie des anciens comités dans certaines universités qui ne sont plus là. Il y a maintenant les autorités académiques nommées par le mouvement. Maintenant, le vieux a semblé dire que tous sont des professeurs, ils sont payés par l'État et ils continueront à être payés par l'État.
Je n'ai pas dit ça.
Vous l'avez dit autrement. Et donc, là, il y aura un souci. Il y aura un souci dans quel sens? Est-ce qu'on va considérer que ces enseignants, qui étaient ou qui sont toujours payés par l'État, par le fait d'avoir accepté d'être nommés, veut dire qu'ils ne dépendent plus de l'État? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous êtes payé par l'État. Vous continuez à être payé par l'État. Quelqu'un vous nomme. Parce qu'on ne doit pas se cacher le fait. Il y a une certaine complicité, mais compétition, une guerre entre le gouvernement et le mouvement.
Ce qui fait que ceux qui sont pour le mouvement, ils sont traités comme des ennemis de l'autre côté, et vice-versa. C'est pourquoi d'ailleurs le mouvement aussi l'a fait, parce qu'il a supposé qu'on doit avoir les contrôles sur ces établissements-là. Et pour avoir les contrôles sur ces établissements-là, il faut avoir les nôtres. Et donc, on met de côté ceux qui, entre guillemets, seraient dépendants de Kinshasa, et on met ceux qu'on estime qu'ils peuvent bien servir les intérêts du mouvement.
Mais est-ce que vous pensez, là maintenant, est-ce que vous pensez réellement que toutes les personnes qui ont été nommées sont des mèches directement avec
le mouvement? Je n'ai rien dit. Moi, j'ai fait l'analyse des
faits. Peut-être qu'ils ont été nommés sur base peut-être d'une analyse de leurs compétences.
Ne m'amenez pas à dire ce que je n'ai pas dit. Mm-hmm. Moi, je fais une analyse des faits au regard de tout ce que nous traversons actuellement. Mm. Parce que même ceux qui restaient à Bukavu, la plupart on les traite des traîtres. Mm-hmm. À plus forte raison, ceux qui sont nommés. Mm. Voyez-vous. Mm-hmm. Et donc, moi, ce qui me met en difficulté, il n'y a pas longtemps, on était ici avec certains membres du mouvement et d'autres acteurs qui disaient qu'il y avait déjà des structures et qui connaissaient de sérieux problèmes par rapport à tout ce qui est des taxes. Est-il que certains hôpitaux ne recevaient plus les frais de fonctionnement, comme je parle de l'hôpital de Mukongo, là, je parle de plusieurs écoles de la ville. Et à un certain moment, on a fait face à des difficultés parce qu'il y a des écoles qui n'étaient plus même en mesure d'honorer. Donc, les factures.
Ou même d'acheter la crête.
Oui, oui, je vais arriver par là. Mm-hmm. Et on a senti que la Régie des eaux menaçait de couper de l'eau dans beaucoup de structures de l'État. Mm-hmm. Au motif que, bon, l'argent qui proviendrait de Kinshasa n'arrive plus. Alors je me dis, est-ce que cela ne va pas aussi créer un petit souci par rapport au fonctionnement de ces institutions-là?
Ouais.
Parce que, bon, ou soit, en fait, l'État comprend que les gens qui sont ici doivent vivre. Mm-hmm. Ils continuent à faire ce qu'ils faisaient. Ou soit l'État s'est dit, non, comme ce n'est plus sous mon contrôle, on laisse ceux qui contrôlent les faire. Mm-hmm. Moi, c'est l'inquiétude que j'ai par rapport à ces nominations. Mais pour le reste, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais je doute seulement que demain ou après-demain, on dise qu'il y a un problème de fonctionnement, qu'il y a les uns qui ont été ciblés, et ainsi de suite. Et si cela n'est pas fait, on peut se dire qu'il y a déjà une complicité, une collaboration inédite entre les deux camps, de sorte que, bon, l'un peut nommer et l'autre paye.
Merci beaucoup. Joseph, 30 secondes.
Je partage l'essentiel des préoccupations et des contre-préoccupations. Mais ce qui m'inquiétait, je le souligne seulement, c'est que je voudrais que ceux qui prennent ces décisions se souviennent de trois choses. Nous, les Congolais, nous sommes attachés à l'unité de notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes attachés à la continuité. Parce que l'aîné l'a dit, notre papa l'a dit si bien qu'il faut une conformité aux lois. Et là où, ce qui m'inquiète, et j'ai partagé la réflexion de plusieurs autres universités et chercheurs, c'est que il fallait peut-être envisager, il fallait envisager de couvrir les postes qui, j'entends, je peux comprendre les postes qui n'étaient pas occupés pour assurer la fonction. Comment? La continuité, la bonne gestion. Mais il ne fallait pas remplacer ceux qui étaient là, ceux qui avaient telle fonction. Par exemple, le pauvre Nyalouma, je prends juste son cas, ou d'autres, je ne sais même pas pourquoi je cite son nom. C'est que je liste une personne, par exemple, qui peut être remplacée par une autre. Alors que l'objectif devait être, par exemple, combler le vide. Par exemple, le cas de l'IOB, on sait qu'il y avait un secrétaire général académique qui jouait aussi le rôle directeur. Peut-être, je peux entendre qu'on dise, voilà, à ces niveaux ici, on travaille avec le collège ou le collège le comité de gestion, ainsi de suite, et le collège d'enseignants, des profs.
Et dans les institutions où il y avait des conflits, par exemple,
Bien sûr, on peut toujours démocratiquement réfléchir sur ça et on peut prendre des décisions, je le comprendrai. Mais quand on entre dans une logique, moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est ces bouchons qu'on pousse encore très loin sur ce qui est d'un État dans un État. Mmh. À un moment, je me pose des questions jusqu'où, en fait. Jusqu'où on pousse, et je souhaite qu'il y ait des secteurs, comme l'a dit l'aîné, qui restent en dehors
du cadre politique,
et où on peut se dire, nous on fait la politique comme on le veut, on est dans notre lutte, mais on essaie de garder les institutions le plus loin possible, mmh. Et quand on les approche de façon voilà, on collabore.
Pour les appuyer, en fait.
Pour les appuyer, pour on dit, il manque qui là-bas, qu'est-ce qui bloque pour que ceci se fasse bien, ainsi de suite. Et là, je peux entendre.
Merci ça. Beaucoup, merci beaucoup. Il y a 30 secondes pour clore cette campagne.
Moi, je voulais situer ça dans le cadre de la validité des actes. Je n'exclus pas les influences. Attendez, même avant la guerre, les autorités qui sont là ont été. Est-ce qu'il y a eu des élections? Il y en a qui ont été nommés parce qu'ils appartiennent à un parti politique. Vous trouvez ça correct? Donc, il y a souvent eu. On dit, oui, c'est l'UOB, c'est pour l'AFDC. L'ISP, c'est pour, c'est pas INC ou c'est pas moi quoi. Moïse Dozang, il avait un parti politique. Il a disséminé ses membres à travers le. Mais c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est le secteur doit être administré. Je vais vous donner un cas, une anecdote, et je vais terminer par là. À la collation des grades de l'année passée, 2024-2025, je parle de l'ISP Bukavu, le vice-gouverneur est venu représenter l'autorité politique. Et l'autorité politique prononce le mot de clôture de l'année. Il y a eu un petit débat. Il prononce quel mot? Généralement, on dit... Au nom de son Excellence, Madame la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, je déclare close l'année académique 2024-2025. Je suis parmi ceux qui ont fait le petit débat dans un coin pour ne pas embarrasser le vice-gouverneur qui était là. On a préparé le mot que je viens de vous citer ici et c'est le mot qu'il a lu. Il n'a pas dit au nom de l'autorité de Goma. Non, je n'ai pas entendu ça. Et donc, si vous appelez ça complicité, mais c'est pour essayer d'harmoniser les choses pour qu'on ne puisse pas faire des catastrophes inutiles. Les recteurs et les secrétaires généraux académiques vont à Kinshasa avec autorisation verbale des autorités de l'FCM23. Parce qu'une autorisation écrite d'ici, s'ils arrivent là-bas, on dit, ben voilà, on déchire ça. Mais ils y vont, je veux pas.
Ils reviennent avec les diplômes et tout.
Ben, ils reviennent avec les diplômes. Je ne veux pas citer des noms des gens ici. Il y en a qui viennent de Kinshasa, qui ont participé au conseil d'administration, par exemple, des ISP, des universités. Et on ne les a pas arrêtés. Moi, j'ai pas vu, on ne les a pas arrêtés. Ils sont rentrés. Et puis, donc, il y a quelques passerelles pour permettre à la vie de continuer. Je ne dis pas que nous sommes dans un état, nous sommes dans un espace dirigé par des autorités non étatiques. Je n'injurie personne, c'est un concept mondialement connu. Quand je dis autorité non étatique, c'est-à-dire qu'ils posent des actes, ils ne siègent pas aux Nations Unies. Donc, je n'ai jamais appris que à Goma, quelqu'un s'est proclamé président de la République. Donc, nous sommes en train de marcher sur les œufs. Il ne faut pas les casser. Et il faut quand même se frayer un chemin pour y aller tout doucement, permettre aux vaccins d'arriver, permettre à l'OMS de se promener, et tout ça sous... la supervision des Nations Unies. Il y a quand même la MONUSCO qui est encore à Goma. Moi, je n'ai pas appris qu'on a tiré les bombes sur le camp de la MONUSCO. Tout ça, ce sont des aménagements en attendant la sortie de la crise.
Merci beaucoup.
Et il faut plutôt travailler sur la sortie de la crise au lieu de nous appesantir sur des choses qui, peut-être après la guerre, pourraient s'empirer.
Merci beaucoup. Augustin, je crois que l'essentiel a été dit.
Oui, en tout cas, l'essentiel a été dit. Mais tout ce que je peux dire pour... j'ai été content, c'est que notre ami de l'Institut...
José Baraka.
Oui, de l'Institut Patrice a dit, on doit quand même savoir que l'unité du pays est une préoccupation majeure des Congolais. Des deux, les nominations telles qu'on les a suivies nous plonge devant une logique. Nomination, discours des nominations, plus un discours suivi de désactivation. J'ai craint que cela ne déstabilise même les professeurs qui ont été nommés. Je constate également que, contrairement aux pratiques, je n'ai pas vu de message de félicitations. Alors, tout ça, ça doit nous aider.
J'ai félicité quelqu'un, il m'a dit, on est parti Paul.
Vous voyez ça.
Mais comment ça? Allez, Pichard.
Vous voyez un tout petit peu. Donc, moi, je vois un professeur, c'est quelqu'un qui doit être psychologiquement stable. À plus forte raison, un gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur. Donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour que le professeur nommé, d'ailleurs, tout éducateur, surtout à ce titre-là, que les gens soient psychologiquement stables. Il ne faut pas que, finalement, les profs soient dans des situations inconfortables à la suite de leur nomination.
Merci beaucoup, merci voilà beaucoup. Exactement 9h36 minutes. Vous l'avez suivi au moment de notre introduction. 15 personnes libérées par les autorités congolaises ont été remises vendredi 7 août à la FSAM 23. Le convoi a quitté Beni, dans le nord du Nord Kivu, dans la soirée du 6 août. Après avoir transité par l'Ouganda, il a rejoint le territoire de Rutshuru dans le sud de la province où la remise a eu lieu le 7 août au matin. L'opération s'inscrit dans le cadre du mécanisme de Doha signé par les parties en septembre 2025. Selon le CICR, l'opération a été menée en coordination avec les autorités sanitaires dans le respect des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Une ambulance de la Croix-Rouge a été mobilisée à ces sujets. Je cite, nous espérons que cette opération contribuera à apaiser des familles longtemps séparées de leurs proches et ouvrira la voie à d'autres libérations. Fin des citations, a déclaré Stéphanie Heller, chef des opérations du CICR à Kinshasa. L'AFSAM 23 confirme avoir réceptionné ce groupe, mais précise que seuls 9 des 15 personnes figuraient sur ses propres listes des revendications. Les 6 autres non réclamés auraient néanmoins été acceptés, puisqu'ils sont des Congolais, précise une source proche du mouvement. Le CICR agit comme intermédiaire neutre dans ce processus à la demande de parties. Il s'agit du premier transfert de ce type depuis la signature du protocole sur la libération des prisonniers signé le 14 septembre 2025. Au chapitre des réactions, Washington salue le premier transfert des détenus opéré entre Kinshasa et la FSAM 23 dans le cadre du mécanisme de Doha. Les États-Unis ont salué cet acte. Et il faut le préciser, dans le cadre du mécanisme d'échange des prisonniers prévu par le processus de Doha signé l'an dernier entre le gouvernement et l'AFSAM 23. Dans une déclaration, Washington a exprimé sa reconnaissance envers le rôle de coordination du CICR dans cette opération, y voyant un signal de dynamique croissante vers une paix durable et un regain de confiance entre les communautés affectées par le conflit. Les États-Unis ont également remercié le Qatar pour son travail continu aux côtés du CICR, appelant les parties à poursuivre cette dynamique vers la pleine mise en œuvre du processus. Et l'État du Qatar salue la libération par les autorités congolaises des 15 personnes détenues, ainsi que le transfert et la remise de ces personnes à l'AFC, facilité par le Comité international de la Croix-Rouge CICR les 6 et les 7 août, conformément au mécanisme de Doha. Le Qatar estime que cette libération constitue une étape importante pour renforcer la confiance entre les parties et créer un environnement favorable à la poursuite des efforts en faveur de solutions pacifiques et durables. Cette avancée devrait ainsi contribuer aux efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Augustin, pour vous, que représentent ces gestes de la part du gouvernement de Kinshasa?
Ah, merci Expedi, merci encore pour l'invitation. Moi je crois que ces gestes n'est pas anodin. Mais à la lecture ou à l'analyse de ce geste doit nous éviter à faire des lectures extrêmes. La première lecture à éviter, c'est de dire « Waouh, la paix est là ». Ce serait prématuré, à mon avis. Deuxième lecture à éviter, c'est de dire « Ce geste ne signifie rien ». Ce serait non plus, serait également une erreur. Mais je pense que pour moi, ces gestes, cette libération, ces échanges de prisonniers constituent un pas, petit soit-il, mais significatif. Au-delà de ça, je voudrais relever quand même l'importance finalement que je situe à quatre niveaux de ce geste. Premièrement, derrière les chiffres 15, il y a toutes les familles et toutes les communautés qui attendaient les leurs, les gens qui ont été libérés. Finalement, on comprend toute la peine des familles qui pourraient avoir perdu contact.
Donc, c'est déjà, si, même si le chiffre est petit,
oui.
Il s'agit de 15 personnes, non. Mais le geste peut affecter peut-être une centaine de personnes.
Tout à fait, c'est pas petit, il faut aller au-delà. Mmh. Parce que c'est le niveau humain, ou le niveau humanitaire humain. Mmh. Donc, je vois la joie retrouvée de ces familles qui étaient plus ou moins, qui peut-être n'avaient plus suffisamment de contacts. Et déjà avec la remise, l'échange de prisonniers, c'est déjà un rétablissement des liens familiaux ou de la réunification familiale. C'est déjà bon. Au niveau politique, ces gestes signifient quelque chose, que les deux parties n'ont pas coupé contact. Donc il y a toujours des contacts qui sont là, malgré tout. Et que le canal diplomatique n'est pas fermé. Trois, au niveau sécuritaire, je note que en impliquant les CICR, qui est une institution neutre, c'est aussi renforcer la confiance que demain ou après-demain, si une autre opération du genre s'est réalisée et que les gens seront en sécurité, parce que ça s'est fait avec tous les professionnalismes possibles, ce qui est très nécessaire et très important. Quatrième niveau, où je note l'importance de cet acte, c'est au niveau diplomatique. J'ai suivi que les États-Unis d'Amérique, le Qatar ont salué ces gestes et ils ont appelé les partis à poursuivre la même dynamique. Ce qui est très bien et qui montre finalement que la question ne se résume pas dans la relation RDC-AFC, mais plutôt se situe dans un processus ou dynamique beaucoup plus large. Voilà plus ou moins comment je peux circonscrire ces gestes, mais tout en relevant le fait que ce qui est important pour moi, c'est de trouver, c'est arriver à trouver que tous les belligérants sont déjà fatigués par la guerre. Et qu'il nous démontre que le conflit est déjà à son stade de maturité. Ça veut dire, on l'a dit autrefois, où les acteurs au conflit comprennent qu'il n'est plus utile de recourir aux armes, mais plutôt de résoudre le problème par les voies pacifiques, notamment par les négociations.
Merci beaucoup.
Parce que nous voulons voir la sécurité, la protection des populations civiles. On veut voir la vie reprendre normalement, on veut de parler de tout ce que ça donne comme du tort par rapport à la réunification, aux actes, tout ça, vous avez suivi tous les débats qui ont précédé, et nous voulons voir la réunification du pays.
Voilà.
Et oui,
voilà. Merci beaucoup. Joseph, à votre niveau, il faut rappeler que sur les 8 protocoles prévus dans le cadre de l'accord de paix de Doha, disons dans le processus de Doha, 2 ont été déjà signé définitivement. Il y a un protocole sur lequel les parties ont échangé à Montreux, notamment le protocole sur les aspects humanitaires. Mais le protocole pour la libération des prisonniers avait été signé le 14 septembre 2025. Mais la première libération intervient pratiquement une année après. Pour vous, cela se justifie par quoi?
Bon, c'est déjà la réponse à cette question vient d'être posée par le co-débatteur et Augustin, et il le dit si bien, le conflit est arrivé à maturité. J'ai aimé le concept, merci beaucoup de me les passer, de nous les passer pour ceux qui, comme moi, ne le...
Ça arrive.
Voilà. Oui, mais je dis, mais c'est bien, en fait, c'est un signe. Moi, je dis, c'est mon avis, je pense que c'est arrivé à une certaine maturité, et une maturité qui moi, vous allez m'excuser d'utiliser le terme, mais c'est aussi la conséquence d'un cheminement d'orgueil, hein, d'orgueil de ceux qui pensaient ou pensent toujours que de toutes les façons ils peuvent tout, ils vont pour les uns par la ruse, on voit tout ce qui s'est fait, on a fait trop la ruse ici chez nous, on se demande à la fin de compte qui est sérieux et qui ne l'est pas, on a tous vu, aujourd'hui on signe un accord, demain ils se bombardent entre eux, vous voyez, j'espère que, voilà, on souhaite qu'ils arrivent à cette maturité où on fait un acte et la population, ce que nous on attend, et ceux qui analysent l'évolution de la chose, ce que nous on attend est que les gens soient conséquents par rapport aux gestes qu'ils posent. Maintenant, première réponse, c'est un signe qu'ils arrivent à un certain moment où ils se rendent compte que Goma ne gagnera pas. Goma et tout ce qui porte Goma n'arriveront peut-être pas jusqu'à Kinshasa. Ou pour ceux qui voulaient aller à Kinshasa, ou ceux qui veulent prendre tout le sud Kivu, parce qu'il faut ne pas perdre cela aussi de vue, pour ceux qui veulent contrôler tout le sud Kivu, bon, ils se disent peut-être qu'ils peuvent donner la chance à une certaine évolution. Et pour ceux qui est de Kinshasa, qui pensent que soit les Américains vont tout résoudre par un coup de fil, soit, par les armes, ils vont mettre une forte pression pour qu'à la fin de compte, ils négocient de façon équilibrée. Peut-être qu'ils se rendent compte que tout cela peut être, une impasse qui dure, à la fin de compte, tout cela n'arrive à rien. Et puis, il y a aussi les partenaires de cette situation, les Américains ou d'autres, qui peuvent avoir donné des messages ou des avis en dans ce sens. Je complète cette information par le fait que j'ai lu sur Olivier Kamita qui a déclaré hier qu'il venait aussi d'avoir son passeport en fin de compte. Et puis il posait la question de savoir est-ce que tout cela participait dans la mesure de décrispation politique, comme on le disait. J'espère et souhaite, ce sont des petits pas, mais j'espère et souhaite qu'ils évoluent dans ce sens là-bas et ils se rendent compte que de tous on est fatigué de cette situation, nous les civils en premier, parce qu'en fin de compte tous ils prennent leur rythme, chacun a son Félix Tshisekedi, donc le régime de Kinshasa pour le gouvernement de la République démocratique du Congo pour sa part et le mouvement AFC-M23 pour sa part, chacun y va à son rythme selon ses ambitions, ses intentions et mélangé à tout ce qui se passe dans la région et dans le monde, mais nous leur demandons de comprendre que une fois encore nous insistons sur le fait que nous avons besoin de la paix, mais de la paix qui permet à ce pays de rester un, qui ne fragilise pas la souveraineté de notre pays, parce que cette génération qui se fait la guerre et qui ne veut jamais finir avec la guerre, elle doit se souvenir qu'il y a une génération qui vient après elle et qui a besoin aussi de se dire que qu'est-ce qu'il fait de ces pays, il ne faut pas qu'il retrouve un pays morcelé ou sans souveraineté parce qu'on a vendu aux Américains pour vaincre ceux qui étaient vos frères et sœurs, pour les vaincre, vous voyez un peu ce que je cherche à dire. Et il y a d'autres qui sont partis négocier avec d'autres pour fragiliser les autres, alors qu'on a besoin d'une paix où on se parle, ainsi de suite. Je finis ce propos en posant la question de savoir pourquoi le dialogue national ne se fait pas, alors parce que c'est signe, c'est cette libération veut dire que Doha continue à faire des pas. Alors pourquoi refuser le dialogue national? Je me suis posé cette question hier quand on m'a parlé de... Pourquoi on dit qu'on ne peut pas négocier avec AFC-M23 dans un cadre du dialogue national pour faire un atterrissage en douceur et vider toutes ces questions une fois pour toutes, alors qu'en même temps,
on échange à Doha,
on va en Ouganda pour parler de je ne sais pas quoi, on fait ceci, ainsi de suite. Quelle est la logique derrière? Parce que pour moi, et c'est là que je suis un peu blessé par la manière de penser et d'agir de cette classe politique de part et d'autre. Donc comment est-ce que vous vous dites que vous ne pouvez pas vous parler, les uns vont foutre les autres par la force, les autres vont faire ceci, mais en même temps, vous continuez à faire ça. Alors que nous, on sait que s'il y avait un dialogue, où on y allait avec là, on privilégiait l'intérêt national, on pourrait avoir des résultats.
Merci beaucoup. Maître Maurice, est-ce que vous pensez que cette libération des prisonniers, certes, il y a eu cette information publiée par Steve Wemby via son compte X, il précise qu'on est vers une nouvelle réunion AFC gouvernement congolais en Suisse à la fin du mois, une nouvelle rencontre entre les représentants de AFC-M23 et ceux du gouvernement congolais serait envisagée, il s'exprime au conditionnel, en Suisse vers la fin de ce mois, dans le cadre de la poursuite des discussions de paix. Là, il fait allusion au processus de Doha. Mais est-ce que vous pensez que la libération des prisonniers a un lien avec les dynamiques internes au niveau national, par exemple, l'octroi du passeport à Olivier Kamita, tout la tendance à vouloir organiser le dialogue entre Congolais, ce qui a un lien entre ce qui se passe à Doha, la libération des prisonniers et les aspects internes de la crise congolaise aujourd'hui?
Je ne pense pas. En fait, il y a trois initiatives, il y a trois démarches. Mm-hmm. Il y a le processus de Doha avec l'AFC-M23 et le gouvernement. Il y a le processus de Washington avec le gouvernement congolais et le Rwanda. Et il y a le dialogue en cours avec tout ce qui est entre guillemets et classe politique congolaise. Mm-hmm. Alors, ce qui s'est fait dans le cadre des opposants, ça rentre Donc c'est un prélude en fait de dialogue. Tout ce que Kamita Tou a écrit. Ce qui s'est fait avec la libération des prisonniers, ça rentre dans le processus de Doha. Mm-hmm. Et là, je dois vous dire que c'est parmi, en fait, parce qu'il y a 8 protocoles qui devraient, normalement, dans la logique des choses, être signés pour pouvoir parler de l'accord de Doha. Mm-hmm. Mais là, dans ces protocoles-là, on est déjà à 2. Mm-hmm. On a déjà signé 2 protocoles. Le premier, c'est le mécanisme pour la libération des détenus, mm-hmm. qui a été signé en septembre.
Le 14 septembre.
Et une année après, on commence à voir les gestes de bonne foi. Mm-hmm. Il y a également le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu, mm-hmm. qui a été signé en octobre 2025. Et là aussi, presque une année après, on a vu une délégation, n'est-ce pas, mixte, hein, oui. gouvernement, MONUSCO et Tragoma, et on aurait appris que certains, un officier serait chassé. Donc, mm-hmm. si, dans les 8 protocoles, une année après, on a signé que 2, donc si on a signé que 2 protocoles, et qu'on commence le débit de son exécution une année après, donc il y a lieu de se dire qu'il nous faudra encore 6 ans.
Presque.
Il nous faudra encore 6 ans. Parce qu'on a signé les 2 en septembre-octobre, et pendant ce temps, on n'a rien dit, on n'a rien fait, on est resté dans les distractions, et on commence à faire des petits gestes, entre guillemets, de bonne foi. En même temps, le combat continue. Voyez-vous ? Et donc moi, je pense que c'est une façon de gagner le temps pour les belligérants. Et je crois vraiment que c'est une distraction qu'on nous fait. Moi, je ne vois pas, contrairement aux autres collègues ici, je ne sais pas voir la bonne foi. Sinon, la bonne foi serait que on arrête les hostilités, on observe réellement les cessez-le-feu parce qu'on a déjà signé ce protocole, on continue dans les discussion, la mise en œuvre de ce qui est déjà signé et comment continuer avec les autres. Parce que là, on est.
Maître Maurice, parce que selon ceux qui suivent les différents conflits un peu partout, les partis peuvent échanger tout en se battant.
Oui.
Cela a été vécu.
Quelle est la valeur du deuxième protocole? Quelle est la valeur du deuxième protocole déjà signé?
Mécanisme de
vérification de cessez-le-feu.
Il faut le mettre en œuvre.
Parce qu'ils ont signé. Mm-hmm. Moi, je suppose que dès lors qu'on signe, c'est-à-dire qu'on se dit, on n'arrête pas.
On dit la même chose dans ce.
Non, mais je dis, c'est signé. C'est un protocole, en fait.
On dit la même chose.
Et dans le cadre du processus de Doha, si on le fait, on devrait arrêter. C'est-à-dire quoi? Chacun reste là où il est. On met fin aux hostilités. Ce qui n'est pas le cas. Il y a des entités qui ont été conquises après la signature de celui-ci. C'est pourquoi moi, je ne donne pas trop confiance à ce processus, parce qu'en fait, tellement ça traîne, il y a des coups bas dedans, et les uns veulent jouer les autres, et du coup, c'est nous qui souffrons toujours.
Merci beaucoup. Ignace Moukira, vous venez de suivre l'avis de Maître Maurice, qui pense qu'il s'agit d'une une énième distraction, un feu de paille, alors que de l'autre côté, Augustin a considéré qu'il s'agissait réellement d'un geste majeur selon lui,
mais significatif.
Mais significatif, il a expliqué l'impact social même de cette dynamique, les familles que ça affecte et tout le reste. Et même sur le plan politique, il a estimé qu'il s'agissait quand même d'un signal considérable.
Oui, je crois qu'il ne faut pas que nous puissions oublier que nous sommes en guerre. Et donc, nous sommes dans une situation d'exception. Nous sommes dans un état d'exception. C'est pour ça que même les actes qu'on pose, ce sont des actes exceptionnels. Je suis heureux que de temps en temps, quand même, on évoque la loi, la constitution, etc., les uns les autres se rapprochent davantage des principes sacrés inscrits dans notre constitution et dans nos lois. Nous sommes donc en guerre et il y a un mot qui ne s'applique pas aux deux situations. Quand on dit que la guerre arrive, oui, c'est qu'elle n'est pas encore là. La guerre arrive ou elle va venir. Mais quand on dit, quand ça commence à crépiter, on dit la guerre éclate. On dit la guerre éclate. Mais quand la paix arrive, on ne dit pas la paix éclate. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui explose. La paix n'explose pas.
La paix vient en douceur. C'est pour ça qu'on ne dit pas que la paix éclate. Mais la guerre, elle, éclate. Et nous la subissons. Parfois, on ne s'y attend même pas. Bon, deux personnes peuvent fuir. Il y a des gens qui ont fui en 98. J'avais un voisin qui avait 6 enfants, qui a fait 600 kilomètres ou 700, je ne sais pas, d'ici à Kisangani à pied. C'est moi qui suis allé fermer sa porte parce que, bon, moi, j'ai, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu, de santé de ma mère, je n'ai pas pu fuir avec lui. C'est-à-dire qu'il a laissé la porte ouverte, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas prendre d'autres choses pour... etc. Donc, la guerre éclate, la paix n'éclate pas, la paix arrive. Et vous avez dit que le conflit est arrivé à maturité. Ceux qui ont étudié, il y a des universités de paix ici, il y a des facultés de paix à l'UEA, il y a une faculté de paix, il y a une université de paix ici. Je crois que là, et même les ONG, tous ceux qui se préoccupent de cette question-là, ils savent qu'il y a des principes. Il y a la négociation, la paix peut venir par la négociation. La paix peut venir par la médiation et tout cela peut s'accompagner par la réconciliation, des mesures de réconciliation. Et ici, nous sommes entre la négociation et la médiation parce que l'accord de Doha s'est fait sous l'égide d'un médiateur. L'accord de Washington a été signé sous l'égide d'un médiateur. Et il y a ceux qui sont toujours dans les couloirs, les Nations Unies. Tout ce qui se passe là, quand vous arrivez à Doha, vous allez trouver, mais il y a M23, mais il y a aussi le délégué du secrétaire général des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? On dit, mais il y a aussi le représentant de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a aussi le représentant de l'Union africaine.
La CIRGL est représentée.
J'ai des textes ici, c'est de tous les accords qu'on a signés, signés par toutes ces personnes-là. Si le secrétaire général des Nations Unies n'est pas là, il est représenté. Et donc, il y a aussi une donnée, on dit la force d'imposition. Ou la force d'imposition d'accompagnement du cessez-le-feu, etc. Vous dites, vous avez dit qu'il y a une commission de surveillance
et de vérification.
De vérification.
Oui, c'est un protocole aussi.
Oui, mais déjà c'est tout. Mais c'est tout. Vérifier n'est pas arrêté. Vérifier, c'est seulement faire rapport.
De vérifier quoi? Non, de vérifier les cessez-le-feu.
Oui, mais ce n'est pas l'arrêté.
Les cessez-le-feu, c'est quoi?
Non.
Mécanisme de surveillance et vérification du cessez-le-feu.
S'il vous plaît, ne soyez pas naïf. Le cessez-le-feu. On peut signer un accord de cessez-le-feu, c'est un processus. C'est un processus et quand on dit il y a un mécanisme de surveillance, de vérification de cessez-le-feu, c'est faire les rapports. Et on a encore entendu des coups de feu. Qui a commencé? Nous croyons que c'est parti d'ici et c'est tombé là-bas. Point.
C'est documenté.
C'est tombé là-bas. Kinshasa a envoyé trois officiers. Vous êtes certain que les trois officiers là peuvent arrêter la guerre? L'Ukraine en ce moment, l'Ukraine et la Russie, échangent les prisonniers. Eux, ils échangent jusqu'à 1000 prisonniers, de part et d'autre. Et le soir même, les drones, les missiles, je ne sais pas, tombent sur Kiev ou tombent sur Moscou. On ne le souhaite pas. Suivez, il y a une guerre d'actualité. L'Iran et les États-Unis. Ils se parlent. Pendant qu'ils sont en train de se bombarder, ils se parlent. J'ai suivi un débat à la télévision à Kinshasa. On dit on a arrêté quelqu'un parce qu'on a trouvé son numéro, le numéro d'un officier de M23 dans son téléphone. Moi, je voudrais savoir, le jour où les trois officiers ont quitté Kinshasa, l'aéroport d'Ndjili, pour venir atterrir à Goma, il n'y a personne qui a téléphoné, il n'y a personne qui a appelé Goma pour dire « tu n'as pas tué, tu n'as pas. Il n'a pas parlé aux oiseaux, il a quand même parlé aux personnes vivantes. Et donc, de part et d'autre. Donc, ces deux personnes-là qui ont communiqué, on devait les mettre en prison, parce qu'ils ont quand même communiqué. Et je crois que les signaux, dans ma langue, je vous épargne des sonorités, ça risque de vous effrayer ici, et on dit que quand l'aube va venir, hein, il y a des signaux. Hein, quelqu'un dit... 5h, une attaque au NR, 6h, une attaque au NR. Vous commencez à demander aux enfants. Mais il fait très noir. Les enfants disent non, mais c'est pas encore l'aube. Mais lorsqu'il y a la lueur, on dit d'ailleurs lueur d'espoir, quand vous voyez la lueur, une petite lumière qui commence à apparaître, on dit Bonata Kakucha. On peut aussi se dire que ce sont des signaux. Ce n'est
même
pas,
si nous sommes toujours en période d'obscurité où les gens se bombardent.
Non, mais il y a quand même des signaux. Il y a des signaux. Il y a encore la pénombre, il y a l'ombre peut-être, mais il y a des signaux. L'AFC M23 a réceptionné, a parlé de 15 personnes. J'ai lu qu'ils ont reconnu les 9 seulement et que les 6 autres n'étaient pas sur leur liste. Mais ils les ont quand même accueillis. Ce qui est une bonne chose. Kinshasa peut mettre sur la liste tous ceux qu'ils soupçonnent d'être avec M23, même s'ils ne sont pas allés moins de couler à Benjamin. Ce qui se passe à Kinshasa, ce n'est pas non plus rose. Même si nous n'aimons pas la guerre et nous n'aimons pas ceux qui font la guerre, il n'y a personne qui aime la guerre, papa. Personne n'aime la guerre. Parce que la guerre, c'est l'absence de la paix. La guerre, c'est l'absence de l'État. La guerre, c'est le non-État. Ne vous trompez pas. Pourquoi va tuer ma barabara? C'est la guerre. Pourquoi va funique à Twende Kamituga? D'ailleurs, moi, je dis, si vous quittez Bukavu, vous arrivez à Uvira, et vous dites que les gens ne se parlent pas. Comment vous faites pour passer d'une barrière de M23 et entrer dans la barrière de Ouazalendo, de Fardessé, arriver quand même à Kalemi et revenir? C'est que tout en se faisant la guerre, on dit bon, monsieur, et balé batou, balitoko, koukou et tout, etc., etc. Et il paraît même qu'il y a plus de paix.
Merci beaucoup.
De ce côté que de l'autre.
Augustin, comment les partis peuvent se comporter pour faire avancer le processus? Vous avez suivi l'inquiétude de Maître Maurice. Une année après, nous constatons la matérialisation d'un acte qui a été signé en septembre 2025. Comment faire cette fois pour passer aux autres protocoles vite fait et assurer leur mise en œuvre aussitôt que le document est signé? Nous constatons déjà que c'est annoncé, bon, c'est encore au conditionnel, une prochaine rencontre à la fin du mois des deux parties encore à montrer en sus.
La première chose à dire, c'est de rappeler que les domaines de négociation, c'est un domaine qui demande beaucoup de patience. Mais je comprends toute la préoccupation, toute la peine de la population qui voudrait que la guerre cesse. Mais déjà, il y a des intérêts qui justifient les positions des parties au conflit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que c'est au niveau finalement de la médiation. Parce que jusque-là, comme l'a rappelé l'aîné Ignace, c'est au niveau de la médiation où tout se joue. C'est-à-dire, la médiation doit être en mesure, j'imagine, où les deux poules médiateurs doivent identifier les intérêts des uns et des autres et travailler là-dessus. Si on arrive à adresser les problèmes en identifiant clairement les intérêts, mais les positions que les uns et les autres affichent aujourd'hui peuvent changer, même après une semaine, deux semaines. Donc je voulais apaiser Maurice avec le calcul qu'il a fait. C'est pas de la mathématique pour dire si la première résolution...
Si on évolue dans la même vitesse.
Si, oui, je comprends, mais c'est pas de la mathématique. Il est possible même qu'après une semaine, deux semaines, ou même une journée, ou deux jours, on peut voir les changements de comportement, et les gens qui tenaient un discours très radical, ils peuvent nous tenir un discours apaisé. Et donc, ce que je peux dire, c'est vraiment au niveau de la médiation et que, en fait, les acteurs au conflit comprennent que les peuples, la population est fatiguée par la guerre et finalement qu'on nous engage dans la dynamique de la paix. Alors, j'ai comme l'impression que les deux parties se sont neutralisées. D'un côté, il a dit, monsieur Baraka, je pense que l'AFC M23 avait son calendrier pour atteindre Kinshasa. Je crois aussi que Kinshasa avait son calendrier pour récupérer les territoires conquis par la FCM23. Mais à la lire où vont les choses, on trouve qu'on fait plus ou moins les surplaces. Et donc, c'est une logique qui devrait nous interpeller, ou interpeller les belligérants pour dire non, discutons, trouvons des moyens pour mettre fin à la guerre. Et c'est tout ce que la population veut parce qu'elle est fatiguée. Sérieusement, moi personnellement, je suis fatigué par la guerre. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc pour finir, c'est dire, en tout cas, on est dans une dynamique, on ne se plie, même ceux qui... Il y a des gens qui sont à l'AFC qui vous disent qu'ils ne comprennent plus. Ils vont où? Il y a des gens au gouvernement qui disent, mais on est dans quelle situation? À plus forte raison, la population qui est prise en étau. Or, les deux parties mobilisent les discours selon lesquels que nous, on se bat pour la population, nous faisons ça, ceci pour la population. Mais heureusement, l'aîné Ignace a rappelé, la guerre, c'est un état d'exception. Voilà pourquoi, à un moment donné, dans une certaine logique, la population ne sait même pas revendiquer l'eau. Parce qu'on est dans un état d'exception. Parfois, je voyais des marches ici, des marches là-bas, réclamations à gauche, réclamations à droite. Mais on n'accède plus à ces possibilités-là parce qu'on est en guerre.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment une réflexion pédagogique difficile parce que personne ne maîtrise le temps, ne maîtrise comment le lendemain va se présenter. Mais les gens qui sont à la maison veulent nous écouter, ils veulent vous entendre parler et essayer de trouver juste des hypothèses, disons des réponses provisoires à toutes les problématiques qui sont soulevées par-ci, par-là.
Je ne vais pas arracher la parole, mais quand généralement nous sortons du studio, tout de suite ou bien le soir, il y a des gens sérieux qui vous disent, vous savez, j'ai pas été à la messe aujourd'hui parce que je voulais suivre le débat qui s'est déroulé à Radio Mandeleo. Et ils retiennent certaines choses. Mais le type là qui a dit, mais il a dit la vérité. Hein? Et donc, nous, on nous suit. Mais il faut pas ignorer que nous avons toujours dit que la guerre, même celles qui sont passées, parce qu'on dit que ça fait 30 ans que nous sommes en guerre, moi, j'ai toujours remis ça en question. La guerre a trois dimensions, ou peut-être plus. Celle-ci, il y a une dimension politique. Pourquoi on ignore ça? Il y a une dimension économique. Il y a une dimension régionale, d'hégémonie régionale. Le mot hégémonie, ce n'est pas aujourd'hui que ça sort de ma bouche, c'est dans tous les écrits. Et il y a une dimension internationale. Mais une dimension économique. Il faut résoudre toutes ces questions-là. Et les armes ne vont pas se taire aussi longtemps que ces dimensions-là n'ont pas été identifiées, maîtrisées et tentées d'être résolues. Quand quelqu'un dit, Sarkozy ou Macron, je ne sais pas, qui avait dit, vous les Congolais, mais vous avez beaucoup de richesses. Mais donnez aussi un peu aux autres, non? Mais je crois qu'on pouvait le faire de Sarkozy des brochettes et manger. Parce que les gens n'ont pas accepté. J'ai souvent rappelé ici que j'ai participé dans une réunion en 2002, il y a très longtemps, où Museveni avait dit ceci. Nous sommes au Congo, parce qu'ils étaient au Congo, il avait 15 bataillons au Congo. Nous sommes au Congo pour la gestion conjointe des ressources naturelles de la RDC. De la RDC, pas de l'Ouganda. Vous êtes certain que cette vision a disparu? Allez lui poser la question. Est-ce qu'il est le seul à réfléchir ainsi? Allez leur poser la question. Comment régler ces questions-là? Ce n'est pas facile.
Merci beaucoup. Joseph, à quel niveau se situe le blocage? Parce que il faut rappeler, on ne l'a pas encore confirmé, la réunion pourrait se tenir à la fin de ce mois. Mais la dernière réunion formelle remonte à il y a presque 3 mois. C'était du 13 au 17 avril à Montreux en Suisse. Dès lors, il y a eu silence radio. On devait faire, par exemple, une mission pour vérifier les cessez-le-feu après une semaine. Cela n'a pas été fait. Les partis s'étaient engagés à procéder dans 10 jours à une libération des prisonniers, mais cela n'a pas été fait. Ce n'est que pratiquement 3 mois après que cette démarche intervient. Pour vous, à quel niveau se situe le point de blocage dans ce processus de Doha? Nous ne revenons pas encore sur la libération des prisonniers qui intervient une année après.
Je comprends, vous avez raison de souligner cette question. À la fin du communiqué de Montreux, à la fin du communiqué de la rencontre de Montreux en Suisse, il était dit ceci. C'était la partie la plus importante de ce communiqué, parce que tout le reste était vide. En tout cas, on se souvient tous, on l'avait lu, les textes répétaient des petites phrases, les mêmes mots, mais à la fin, il était dit ceci. Les deux parties sont priées d'aller soumettre au médiateur des questions de fond qui préoccupent les uns et les autres. Et c'est là que se trouve le blocage, et nous avons déjà eu maintes fois l'occasion d'y revenir ici, et l'aîné vient une fois encore dans sa sagesse d'en poser le cadre. Voilà. Donc, la première chose, nous l'avons déjà dit et redite, la question de l'AMCM23 ne sera pas résolue dans le fond tant que on ne va pas donner de réponse à deux préoccupations majeures. Que deviennent le militaire du M23 après retrait de ces forces identifiées comme les RDF? Si vous n'avez pas résolu cette question-là, vous n'avez réponse à aucun. Vous pouvez raconter des histoires, raconter des histoires au peuple congolais. Le président Museveni nous a donné la réponse récemment, après le passage de l'émissaire du chef de l'État, le ministre des Affaires régionales, Azulu, quelque chose comme ça. Il a dit, l'M23, il ne demande pas beaucoup de choses, il demande un mixage. Il a dit, il veut que Batouba soit intégré dans l'armée. Museveni, j'espère que je ne suis pas le seul à l'avoir suivi. Et donc, il a dit ça après que l'émissaire du gouvernement congolais, le ministre des Affaires régionales, ait porté un projet sur la question, résolution de la question des FDLR. Cette question-là, elle ne sera jamais résolue. Je suis bien d'accord avec le fait que on tourne en rond, mais voilà. Le président Félix Tshisekedi et le gouvernement congolais ne veulent pas de cette intégration là-bas. Ils ne veulent pas. Il faut bien qu'on le comprenne. Ils ne veulent pas qu'il y ait des forces identiques. Certains disent que ce sont les militaires du RDF qui vont devenir M23 et vont se faire passer comme ça. Pour eux, c'est inacceptable.
C'est une infiltration de l'armée. Nous allons revenir à la case de départ. À la
case de départ, ainsi de suite. Demain encore, de même que les militaires du CNDP sont devenus le M23, demain encore, ceux du M23 identifiés comme RDF vont devenir autre chose. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Chacun fait son jugement.
Il y a des questions personnel. De justice transitionnelle.
C'est là le deuxième point.
Les crimes de guerre, les crimes contre
l'humanité. C'est ça les deux points les plus importants. Le coordonnateur Bertrand Bissimo, dans sa préoccupation de mise au point, après juste l'annonce du dialogue. J'étais ici dans l'émission où un cadre de l'AFCM23 avait dit que les coordonnateurs du M23 finalement parlaient des causes profondes. Je lui avais posé la question, quelles étaient ces causes profondes? Mais en fait, une de ces raisons, il a dit, on a senti la question de la levée des poursuites contre les cadres du M23, notamment toute la hiérarchie, et nous souvient. Maintenant, donc la question elle est celle-ci. Qui porte la responsabilité de certains actes, comme Kishiche? Ne commençons que par ça. Parce que quand la guerre avançait, on a vu ce qui s'était passé. Et donc cette question de la justice, de la levée des poursuites, d'amnistie, de ceci et cela, elle se pose. Tant que vous n'avez pas la réponse à ces deux questions là-bas, vous n'avez rien fait pour la partie AFC, pour la partie M23. Et c'est pour cela le coordonnateur Corneille Nangaa. C'est pour cela que toutes ces avancées sont petit pas mais importantes. Les coordonnateurs de Corneille Nangaa, quand il se prononce sur les dialogues, il dit, nous entendons dire qu'il y aura un dialogue, mais nous voulons savoir qu'est-ce qu'on a fait du processus de Doha. C'est parce qu'il est attendu de Doha que les deux questions sensibles là-bas trouvent solution. Dans leur logique. Tant qu'on ne comprend pas leur logique ou la logique des acteurs, on ne comprend pas. Ils se divisent que c'est... Si on va dans un dialogue national, il est très probable que ces deux questions là-bas pourraient ne pas trouver de réponse. Avec l'amalgame congolais, ce qui va se passer, ces questions là-bas ne trouvent, je vous l'ai dit comme ça, jamais de réponse. Ah, donc, alors peut-être dans leur logique, ils se disent, on commence par ça. Mais c'est pour cela que j'ai posé aussi la question. Pourquoi dialoguer là-bas alors qu'on peut le faire dans l'ensemble ici et vider pour la question de fond et une fois encore repenser l'avenir de ce pays? Alors, pour l'AFC, il y a d'autres questions sensibles comme celle, tant que le président Félix continue à insister qu'il doit changer la constitution, des gré ou de force et tout le reste, ils s'en passent. Il y a deux options que j'ai vues dans la logique de ceux qui se prennent les armes. Ils y vont avec une partie, un engagement politique, c'est le sauvons le Congo, et puis ils y vont avec une partie armée, c'est l'AFC. Et ces deux là-bas aussi, tant que vous vous entêtez à dire que on change la constitution et tout le reste on s'en fout, et les élections probablement, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui veut changer la constitution pour permettre au président d'aller
à
l'IDPS ainsi de suite. Si vous pensez que
au matinée politique,
si vous pensez que vous allez changer la constitution de gré ou de force et vous n'allez pas faire des élections et tout le reste, voilà, vous n'aurez jamais de réponse. Donc pour moi, les deux éléments de blocage, ils sont ceux-là. Et peut-être il commence à avoir des propositions de part et d'autre dans les coulisses, on ne sait pas, qui se font et qui peuvent faire des petits gestes. Mais c'est ça la lueur d'espoir. On ne dit pas qu'on a un espoir, oh, voilà, c'est résolu, mais il y a cette lueur là-bas. Mais si tout le monde reste orgueilleux, c'est parti pour 6 ans.
Hein. Merci beaucoup. 6 ans encore. Voilà, maître Mozoré, suivi tous ces plaisanteurs en les écoutant. Justement, ce sont des hypothèses. Je crois que la tâche est grande pour non seulement le médiateur, mais également pour les partis qui sont engagés.
Tout à fait. Vous savez, Expedi, l'accord de Doha, tel qu'il est présenté, repose sur 8 protocoles. Et comme Joseph le disait, que l'une des revendications du mouvement, c'est l'intégration. Il y a un protocole, en fait, c'est le protocole 5, qui parle de sécurité, désarmement et réintégration des combattants, qui peut-être, mais ici c'est cas par cas, qui peut rencontrer d'une manière ou d'une autre l'une des raisons, n'est-ce pas, avancée par le mouvement. Mais il y a l'autre, je crois, le 8e, qui est le protocole sur la justice, vérité et réconciliation. C'est là que ça entre dans le cadre de la justice transitionnelle. Vous voyez, quelque part on parle de la réintégration, de l'autre côté on parle de la justice. Maintenant, marier les deux, c'est pas du tout facile lorsqu'on est dans les négociations. Et je pense que ces deux éléments pourront être à la base du blocage qu'on pourra connaître. Parce que les uns voudraient être intégrés de manière générale, donc tous. Mais ici, on voudrait que ça soit cas par cas. Voyez-vous, c'est déjà un blocage. Mais tous ont signé ça. Tous ont été d'accord avec ces propositions. De l'autre côté, on fait allusion à la justice, n'est-ce pas, pour sanctionner tout ce qui aurait trempé dans les crimes graves. Alors, je ne sais pas comment cela va se marcher, parce que lorsqu'on avait signé le deuxième protocole sur l'accord de vérification de cessez-le-feu, on avait annoncé qu'on allait signer 4 autres protocoles 2 mois après. Et c'est là que moi, je doute fort, en fait, de la bonne foi ou de la volonté des partis. Les médiateurs peuvent être de bonne foi, mais lorsque les partis décident de garder leur position, on ne permet pas à la médiation d'avancer. Donc, vous êtes médiateur, mais moi je suis venu avec une position, je reste sur ma position, l'autre reste sur sa position, ne fait pas de concessions. Le médiateur n'aura pas en tout cas à amener les deux parties à accomplir ce qu'ils voudraient qu'ils accomplissent dans le cadre de la démarche en cours. Et donc, d'une part, la médiation va connaître un sérieux problème lorsqu'on va chercher à signer les autres protocoles. Vous voyez, aujourd'hui, on veut annoncer le troisième pour ce qui est de l'action humanitaire et protection judiciaire. Mais quand il sera de la restauration de l'autorité de l'État...
Encore un autre problème.
Ça, c'est un problème. Parce qu'on dit quoi? On dit quoi dans ces protocoles-là? Parce qu'il faut...
Bon, il faut le dire simplement. Bon, on ne va pas exploiter tout ce protocole en intégralité, mais...
Non, j'ai lu en passant. C'est le 4e protocole, je pense. Il est dit ceci... Restauration de l'autorité de l'État. Ce protocole doit permettre le retour progressif de l'administration congolaise dans toutes les zones occupées par la FCM23. Il fixe les acteurs impliqués, les calendriers, ainsi de suite. C'est pas facile, en fait.
Même au lendemain de cette signature, signature, je crois, du protocole d'entente entre les parties, on a suivi que les interprétations étaient diverses.
Effectivement.
De la notion
donc,
de.
Donc, moi, si je dis que ce n'est pas facile, et si j'ai dit que ça prendra du temps, c'est parce qu'à chaque étape, lorsqu'il signe un protocole, chaque partie a sa compréhension, chaque partie a son entendement. Voyez-vous? Et j'avais suivi, à l'époque, je pense, les secrétaires du mouvement, Bonipa dire, c'est vrai, réfi, que cette démarche n'avait pas un caractère contraignant. Et donc, moi, le problème, c'est la bonne foi des partis au processus qui montrent la volonté de pouvoir échanger, de régler les problèmes, mais dont, en interne, ils se disent que toi, qu'il est tout.
Merci beaucoup. Ignace, comment faire pour travailler sur cette bonne foi des partis?
La bonne foi est un concept sentimental. Et donc, on ne peut pas peser, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas vérifier. Et ça dépend, la nuit porte conseil, on peut être plus à 18h et moins le lendemain matin, etc., etc. Mais les gens se soupçonnent et se piègent. Quand vous suivez le débat à Kinshasa, la paix signifie le retour de l'administration de Kinshasa telle qu'on a connue, qu'on ouvre l'aéroport pour que les gens continuent à faire ce qu'ils faisaient avant, etc., etc. Mais qu'est-ce que vous faites? J'entends souvent que, bon, Joseph Kabila avait fait le brassage, on avait fait l'infiltration, etc. Moi, j'ai un document ici de la conférence sur la paix, la sécurité, le développement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, du 6 au 23 janvier 2008. J'avais participé à cette conférence-là. C'est des documents signés par les groupes armés du Nord et du Sud Kivu. Ce sont ces groupes armés qui, en 2008, avaient demandé le brassage et le mixage. Ce n'était pas avant ça. Sand City n'a jamais parlé de brassage et de mixage. Parmi les objectifs de la transition et dans l'accord global et inclusif, il est dit ceci au point 4 des objectifs. Formation d'une armée républicaine intégrée. Point. Après Sand City, on n'a jamais parlé de mixage ni d'intégration. C'est en 2008 que les groupes pour le Sud Kivu, FRF, c'est Minembwe, groupe Yakutumba, groupe Zabuloni, Maïmaï Kirikicho, Pareko et Sud Kivu, Raya Mutomboki, Maïmaï Nyakiriba, Maïmaï Kapopo, Maïmaï Maoro, Maïmaï Shikito, Mudundu 40, Simba Maïmaï et Maïmaï Shabunda qui avaient signé les brassages demande de déploiement des observateurs, définition
de Lusaka.
De l'itinéraire des groupes. J'ai l'accord de Lusaka ici. De groupes armés, définition de l'itinéraire de redéploiement des groupes armés vers les centres de transit, premier mouvement, et vers les centres de brassage ou de démobilisation, deuxième mouvement, et en cas de nécessité, suivi de leur formation et instruction. Les personnes, les groupes qui ont signé ça sont ici pour le Sud Kivu, ils sont là pour le Nord Kivu. C'était en 2008, pendant la transition, moi j'étais à l'Assemblée nationale, on n'a jamais parlé de brassage ni de mixage. Mais que deviennent les Congolais, je voudrais préciser les choses, que deviennent les Congolais qui sont dans le M23? Parce qu'on dit qu'il y a des troupes qui viennent appuyer, encore que quand les États-Unis sont allés en Irak, il y avait 48 pays derrière. Quand ils sont partis en Afghanistan, il y en avait 52. Donc, la seule chose grave qu'on ne peut pas faire seul, c'est la guerre. Si quelqu'un dit que j'ai derrière moi quelqu'un qui m'aide, qui s'appelle Ougandais, Rwandais, Burundais, moi je dis que c'est tout à fait normal dans une guerre. De l'autre côté, il y a aussi des gens qui soutiennent, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas ça une catastrophe. S'il y a des Rwandais, quand je dis s'il y a des Rwandais, au sorti d'ici, on va dire où qu'on a va s'aimer à tout bon. Ok. Comme il y a des Rwandais dans le groupe, moi je n'ai jamais vérifié parce qu'ils ont tous des drapeaux congolais. Sortez si vous verrez des drapeaux congolais. S'il y a des forces étrangères dans le FM23, mais leur porte c'est où? Ils doivent rentrer d'où ils sont venus. Mais ceux qui sont dans l'M23 et qui sont vos oncles, vos cousins, je ne sais pas, ils font quoi? Ils vont être brassés, ils vont entrer dans l'armée. C'est de ce brassage-là qu'il faut parler. Il faut pas ignorer. C'est l'aspect militaire qu'il faut résoudre. Ces gens-là, ils ont fait l'armée. En principe, parce que c'est quand on a pris les armes contre son propre pays, vous êtes hors la loi. Votre place se trouve où? En prison. Vous auriez bien voulu qu'après le dialogue, après la signature, que vous entriez en prison. Il faut qu'on vous trouve quelque part. Si vous voulez rester dans l'armée, vous restez dans l'armée. Si vous ne voulez pas, mais on vous oriente vers la réinsertion sociale, etc. Vous avez parlé de bonne foi. Mais les gens se piègent. Moi, je suis à longueur de journée les débats à Kinshasa. Il y a d'abord un problème de connaissance du problème. À Kinshasa, un problème de connaissance du problème. Il y a trois, je vous ai dit qu'il y a trois mensonges. Enfin, je m'excuse, il y a trois boules de trucs qu'on peut vendre. On vend du vent dans trois boules. Première boule, il suffit de citer Kagame. On dit, ah oui, on veut Kagame, c'est tout, ok. Comment on appelle encore ça? Balkanisation. Mais notre pays est parti. Moi, quand on nomme le professeur Mano à l'IOB, je crois qu'il n'est pas venu de Kigali. Quand on nomme dans les trucs là, donc il est possible, moi je ne crois pas à la balkanisation, ça c'est chanté pour ceux qui, que ça c'est du fin de ce qu'on appelle mensonge d'état pour faire passer un beau discours. Je vais terminer par l'exclamation que j'ai lue de James Kabarebe. Il dit mais le Rwanda et le Congo entre nous et Félix Tshisekedi. Mais c'était la lune de miel. Il dit, mais diable, qui est venu nous amener cette guerre ici alors que c'était la lune de miel? Quand Tshisekedi a commencé entre Kinshasa et Kigali, c'était la lune de miel.
Exactement 10h26 minutes à Bukavu. Merci à Ignace Mupira, merci à Augustin Moudekereza, merci à Maître Maurice Mirindi, merci à Joseph Baraka pour votre participation à l'émission de séjour. Jean-Claude Ndaga a assuré la mise en onde. Passez un excellent dimanche chez vous. Au revoir.
Merci.